Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là ?
Écoute, je swipe sur l'appli Betsson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et... je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betsson. Télécharge l'appli Betsson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, encore une fois, je le dis souvent, quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut.
Certes, non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
Après, il nous avait déjà montré qu'il était capable de faire une seconde partie de saison canon et de finir justement en boulet plus que de canon.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
20h03, vous êtes sur RMC, bienvenue dans Génération After, bienvenue dans l'After qui sera là jusqu'à minuit. Sachez que ce soir on est en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport et sur TikTok. C'est une première, c'est un essai, coup d'essai.
C'est fort.
C'est Oussam Loussaïef qui a mis tout ça en place, bien entendu, avec ses petites mains. C'est fort, comme toi Walid. Bonsoir Walid Acharchour.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Jonathan Macardy.
Salut Nico, tu me donneras l'adresse de ton compte TikTok ?
Non, j'en ai pas du tout moi.
C'est sûr ?
Ouais, parce que je bosse pour le ministère et j'ai pas le droit d'avoir de compte, du coup, c'est pour ça. Mais je peux pas en parler normalement. C'est ce que je viens de faire. Ça va Jonathan ?
Très bien, et toi ?
Voilà, ça va, ça roule. Alors Jonathan, on a fait un petit podcast After Marseille, vous pouvez aller écouter. Il y a le podcast After Paris qui est prêt, le podcast After Lyon également qui est prêt. Ouais. Voilà, on fait un spécial Guendouzi. Ouais. Voilà, ouais. Vous allez écouter ça.
J'y suis sur le podcast Lyon.
Le Lyon ? Ah ouais, c'est quoi le thème ?
C'est Laurent Blanc doit-il mettre son équipe type contre le PSG ?
C'est avec Thibaut Jean-Grand ?
Thibaut Jean-Grand.
Ouais, alors écoutez.
Ouais.
Et Simon Dutin est avec nous également. Salut Simon.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Tout le monde va bien ? Ah, t'es une petite voix, Simon, je te sens pas autant.
Ah là là, petit chat dans la gorge, je sais pas si je couvre quelque chose.
Oh là là.
Voilà, là, on s'écarte.
Je vous donne le programme de ces deux premières heures au lendemain de la victoire des Bleus en Irlande qui a fait suite à celle face aux Pays-Bas. On vous pose cette question. Quels sont vos doutes et vos certitudes concernant l'équipe de France après ces deux rencontres? On attend vos réponses au 32-16. Walid, Jonathan et Simon le donneront leurs doutes et leurs certitudes. Avis tranché de Walid, le grand gagnant de ce rassemblement, et Kamavinga, il nous expliquera pourquoi. Et que doit faire l'OM avec Dimitri Payet? Il lui reste un an de contrat. Alors, il joue peu, mais pour Joe, ce sera son avis tranché. L'OM doit assumer son engagement. Et puis, invité de Génération After à partir de 20h30, Michel Derzac, qui est en pleine hype, en plein prime avec Montpellier, qui est en train de redresser le MHSC, qui se déplacera à Marseille d'ailleurs vendredi. Ce sera en ouverture de la prochaine journée de Ligue 1, sera notre invité dans Génération After. Et à partir de 22h, Nico Jamin sera là. Salut Nico.
Salut Nico. J'apprends que Derzac Carillon est en plein prime, en pleine hype.
Il est en train de renaître.
C'est
60 ans.
C'est deux termes qui te conviennent.
Tu les aimes bien, ces termes-là, Nico.
C'est pas mon Génération After. Mon After Generation. 22h, le même casting qu'hier soir. Daniel Riolo et Flo Gautreau seront là. Alors Daniel, elle veut revenir sur la prestation de Mike Maignan. Il craignait l'enflammade absolue. Maignan, qui est devenu pour beaucoup le meilleur gardien de l'histoire du football français. Il veut revenir là-dessus ce soir, bien sûr.
Hein ? Quoi ? Je l'avais dit ! Sur bon, côté !
Ce sera tout à l'heure. Flo, lui, va nous replonger dans l'actualité de la Ligue 1. Il estime que le titre va se jouer lors des trois prochaines journées pour le Paris Saint-Germain et donc pour l'Olympique de Marseille également. Ce sera son avis. On parlera également de Messi, le feuilleton, où jouera-t-il la saison prochaine ? Une fois en Arabie Saoudite, une fois en MLS, une fois en Argentine.
Je sens que ça va bien venir.
Une fois au Paris Saint-Germain, et bien justement, il veut développer un avis tranché, très tranché, sur j'en ai ras-le-bol du feuilleton Léo Messi. On aura Paulo Breitner également dans l'after ce soir pour revenir sur Allemagne-Belgique et parler des conditions de l'arrivée de Thomas Tuchel au FC Bayern, Fred Armel pour Écosse-Espagne et aussi sur l'altercation surréaliste hier devant l'hôtel du Pérou qui affronte le Maroc ce soir avec trois joueurs péruviens qui ont fini au poste au commissariat qui sont battus avec des policiers espagnols. Ça fait marrer Jonathan Macardy, il aime la castagne.
C'est bien, c'est bien, c'est bien,
même quand c'est pas dans l'octogone.
C'est bien,
c'est bien sur l'octogone, mais...
oui.
Et on évoquera aussi certainement l'actualité autour du FC7, club de National 2, qui a été rétrogradé administrativement l'été dernier, où les joueurs ne sont plus payés. Histoire cauchemardesque pour des joueurs qui n'ont même plus les moyens ni de payer leur loyer, ni de se nourrir aujourd'hui. C'est le président qui doit leur donner de l'argent pour qu'ils puissent nourrir la famille. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Joli programme, hein.
Triste programme. Au programme ce soir.
Merci Nico, à tout à l'heure à partir de 22h. Tiens, il y a également un match amical ce soir qui concerne l'équipe de France Esport qui joue face à l'Espagne. On suit ça avec Pierre-Yves Leroux qui est à Vannes au stade de la Rabine. Salut Pile.
Salut Nico, salut à tous. Salut, exactement, match amical, 0-0 des familles, mais au moins on voit une équipe de France Espoir avec un visage très différent de celui de la lourde défaite face à l'Angleterre, 4-0 ce week-end. Et ils se sont vraiment, ils nous ont fait plaisir, notamment pendant les 20 premières minutes où ils auraient eu la possibilité d'ouvrir le score. Et c'est encore le cas sur cette deuxième mi-temps, une équipe qui n'est pas tout à fait la même, hein, parce qu'il n'y avait que 4 joueurs qui étaient déjà présents au coup d'envoi face à l'Angleterre, mais face à cette équipe d'Espagne qui est annoncée comme l'une des plus fortes parmi les compositions espoir sur la planète, eh bien, la France fait très belle figure. Donc 0-0, il reste une dizaine de minutes à jouer ici, à la Rabine.
Et s'il se passe quelque chose, tu interviens, tu du n'hésites coup, pas.
Oui, on parlait de National 2 tout à l'heure. On a le Red Star qui a ouvert le score en National dans la lutte pour l'accession à la Ligue 2. Et en tant qu'enfant du 93, ça me tient à cœur.
Ouais, ils ont souvent fait l'ascenseur cette dernière saison, mais c'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils font cette année encore.
Avec Habib Bey et Pierre Sage.
Voilà, il mène 1-0 à la 10 minutes de la pause. Hein. Et puis il y aura également la suite de la deuxième journée des qualifications pour l'Euro 2024. Sachez que ça vient de se terminer entre la Géorgie et la Norvège, un partout. Hein, entre l'équipe emmenée par Willy Sagnol, la Géorgie et la Norvège. Voilà, c'est pas mal les Géorgiens, hein, c'est pas mal ce que fait Willy Sagnol depuis qu'il est là-bas.
Ah, Mikotadze de Metz, Kvaratskhelia, il y a du beau joueur. Hein.
Et c'est Mikotadze qui a marqué d'ailleurs, Jimmy Brown. On va parler de notre équipe de France. Supporters des Bleus, on vous attend au 32-16. Quels sont vos doutes et vos certitudes après ces deux premiers matchs de qualif pour l'Euro 2024, justement? Hier, il y avait 8 millions de personnes qui étaient devant Irlande-France, devant leur télé. 8 milliards qui écoutaient RMC, bien entendu. 1-0 à Dublin pour les Bleus, après le 4-0 claqué aux Pays-Bas. L'équipe de France compte 2 succès en 2 matchs. Alors avec Jimmy, on vous a demandé, les gars, de nous donner 3 doutes, 3 certitudes après ce match-là. On va égriner ça et on va en débattre ensemble, voir s'il y a des idées convergentes. Personne n'est au courant de ce que l'autre va dire, hein. Donc on va y aller. On va commencer par vos certitudes. Tu dis quoi, Simon?
Attends, il faut que je retourne voir ce que j'ai envoyé à Jimmy tout à l'heure.
C'est bon ça.
On a quand même plus de certitudes que de doutes. Hein. Non, moi il y a un des trucs qui m'a marqué, c'est l'intelligence de Griezmann. Voilà, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, parce qu'on a beaucoup parlé de l'histoire du capitana, le vice-capitana. Il était scruté. Comment est-ce qu'il allait réagir? Bon, Nico Jamain est parti, je peux dire masterclass du coup de Griezmann. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me rends compte que plus ça avance, je crois que c'est un des joueurs que j'admire le plus de ces 10 dernières années. Effectivement, entre autres pour son intelligence. On n'a pas besoin de répéter qu'il a reculé sur le terrain. Il jouait devant, il jouait derrière l'attaquant. Il est désormais au milieu de terrain avec une activité incroyable. Et encore une fois, je te le dis, une intelligence. Je sais pas comment le décrire autrement, parce que il continue d'être présent pour terminer les actions. Il continue d'être, bon, évidemment, là, dangereux sur les coups de pied arrêtés. Mais dans l'activité, dans les choses qui se quantifient pas par des stats, la petite passe à une touche, la passe un peu plus longue.
Tu parlais de l'attitude, on attendait de voir comment il allait réagir à l'histoire du vice-capitaine. Tu l'as ta liste ou pas? Donne-nous tes trois.
Tu veux les trois? Griezmann est un monstre d'intelligence, j'ai écrit. Colomoigny a plusieurs longueurs d'avance sur la meute de ses concurrents en attaque. Et Upamecano, top 5 mondial à son poste.
Ok. Jonathan?
Moi, là, en termes des certitudes, il y a évidemment la prestation de Mike Maignan. Ça fait un moment que je pense qu'il aurait dû être installé à la place d'Hugo Lloris. Il a fallu attendre la fin, la retraite du monument. C'est une certitude et c'est pas une surprise de voir qu'il est performant en bleu. Le deuxième point, c'est la confirmation d'Adrien Rabiot en tant que taulier au milieu du terrain. C'est un joueur qui a souvent été décrié, qu'on a souvent accusé de nonchalance, de manque de travail. Là, depuis la Coupe du Monde, je pense qu'il est en train de fermer les bouches de plusieurs personnes.
À juste titre, parfois.
À juste titre. Mais je pense qu'en lui, il a un potentiel qui est exceptionnel. Alors certes, il est pas très, il a moins de flow que Tchouaméni, par exemple. Mais c'est un joueur qui a un talent. Pour moi, c'est le milieu de terrain le plus talentueux du roster de l'équipe de France. Et la troisième certitude, c'est qu'on va s'ennuyer. On va s'ennuyer parce que, évidemment, face à des blocs bas, Deschamps sera toujours incapable d'innover et de mettre en place des choses un petit peu plus ambitieuses. Donc, on sait très bien que jusqu'à l'Euro, on a re-signé pour 2 années d'ennui extrême.
Walid, tes trois certitudes, toi?
Moi, la première, c'est la charnière centrale, Upamecano Konaté. J'avais demandé de leur laisser du temps et je trouve que sur les deux matchs, ils ont répondu présent. Et qu'on va en avoir, je pense, moi, sur les prochaines années, du Konaté et de l'Upamecano, Rabiot comme Jonathan, parce que post Coupe du Monde, j'ai trouvé que la deuxième mi-temps hier a été de grande qualité de sa part et son match contre les Pays-Bas aussi. Et puis
hier, vous l'avez trouvé bon, Rabiot?
Moi, je trouvais qu'en deuxième mi-temps, c'est lui qui a donné le là sur le pressing.
Il perd un nombre de ballons hier, c'est pas son meilleur match.
Enfin, en première mi-temps, comme beaucoup de joueurs, il a pas été grandiose face au bloc bas, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, ça a été bien mieux. Après, ensuite,
Pour terminer, c'est Kolo Muani parce que il nous a montré après sa rentrée contre le Maroc, sa rentrée contre l'Argentine et son début de saison extraordinaire avec Francfort, qu'il était capable, que ce soit sur un côté, ou même si je le préfère en numéro 9 ou au poste de numéro 9, d'apporter une palette différente de celle d'Olivier Giroud. Et je pense que ça restera une certitude sur les prochaines semaines et les prochains mois en équipe de France.
Vous venez réagir au 32-16, hein. Venez nous donner vos doutes et vos certitudes. On va les teaser d'ailleurs. Simon, c'est quoi toi tes doutes, du coup, tes trois doutes après ces deux matchs de l'équipe de France face aux Pays-Bas et à l'Irlande?
Alors, histoire de me mettre bien avec Walid tout de suite, moi j'ai mis Kamavinga en sentinelle. Grosso modo, je développerai. Il a été effectivement excellent hier, mais bon, voilà. Pour moi, ça marche dans une équipe qui a le ballon 90% du temps. J'attends de voir dans des matchs où on prendra un peu plus la grêle. Je me demande... quel numéro 2 on va installer derrière Maignan, parce qu'il prend déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Avec Mandanda, on avait un papa, on avait un mec qui quand même avait grosse solidité dans le club dans lequel il jouait à l'époque Marseille. Voilà, ça va être dur de faire son trou en numéro 2. Et puis, qui comme troisième titulaire devant, puisque je considère que Mbappé et Kolo Muani ont gagné déjà leur place.
Ouais, il reste une troisième place à prendre. Jonathan?
Le premier doute, c'est le système et l'animation offensive. Comme je l'ai dit, on a re-signé pour 2 années. Ça, c'est une certitude d'ennui face au bloc bas. Je pense qu'il y a deux, trois choses à améliorer. Va falloir voir comment t'intègres le jeu avec les ailiers. Mais il y a encore beaucoup de boulot pour Deschamps et je sais pas comment et il va réussir à s'en sortir, même s'il a le talent à sa disposition. Le deuxième doute, c'est, ça aurait dû être le numéro 1 parce que c'est le plus gros. C'est ce poste de latéral droit. Alors certes, Pavard met son but extraordinaire, etc. Mais il y a un vrai trou générationnel à ce poste-là et je pense qu'il va falloir vraiment fixer quelqu'un. Est-ce que c'est un autre défenseur central pour compenser le fait que Théo soit plus un contre-attaquant qu'un défenseur, je sais pas, mais en tout cas il y a un vrai problème sur ce poste. Et la troisième interrogation que j'ai, c'est Antoine Griezmann. Moi je l'ai pas trouvé aussi formidable que toi, Simon, contre l'Irlande. J'ai peur qu'en fait sur cette période de 2 ans, même si à l'instant T il est toujours ultra compétitif, j'ai peur qu'on continue de construire un projet sur un joueur qui est vraiment en phase de déclin.
Walid, tes trois doutes toi après ces deux matchs des Bleus?
Moi le premier c'est Deschamps. Parce que, je suis désolé, mais les doutes qu'on a vus dans le jeu, notamment en Coupe du Monde, que ce soit contre le Maroc ou contre l'Angleterre, et même sur les 80 premières minutes contre l'Argentine, ne se sont pas dissipés. Même si on a eu un très beau match contre les Pays-Bas, j'attends de voir sur les deux prochaines années. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le latéral droit, bien évidemment. On a toujours les mêmes doutes. Et la troisième des choses, c'est comme Simon, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est Tchouaméni au poste de numéro 6, Tchouaméni, il est un peu dans... Il est un peu dans le creux de la vague avec le Real Madrid. La même chose avec l'équipe de France. Je l'ai pas trouvé extraordinaire contre les Pays-Bas notamment, ni avec le Real. Lui-même l'a reconnu. Et moi, j'écarterai pas l'idée que Tchouaméni, au fur et à mesure des semaines, aille faire un petit tour sur le banc. On n'en parle pas beaucoup, mais peut-être que N'Golo Kanté un jour va revenir en équipe de France.
On en parlait avec Koussa Moussaïef tout à l'heure, lui c'est sa grande théorie. Lui il y croit mort, lui. Il a rejoué là avec la réserve de Chelsea.
Je pense qu'à un moment donné il va remettre le bleu de chauffe et être sélectionnable. Donc pour l'instant le doute Tchouaméni au poste de numéro 6, je suis pas entièrement satisfait, même s'il est jeune et il a encore bien évidemment une grosse marge de progression.
Alors vous avez certains trucs en commun, hein, je pense notamment au poste de latéral, la charnière, vous êtes d'accord. En revanche, il y a des points sur lesquels vous êtes en désaccord. Je pense à Kamavinga, à Griezmann aussi. On va en reparler, on vous attend au 32-16 hein, pour venir nous donner vos doutes.
J'aime bien
et
ça,
vos certitudes. C'est marrant,
3-3 comme ça, ça...
C'est rigolo, non?
Ça met un peu...
Et puis
ça
plante un peu... pleine de talent, Nico.
Ça plante un peu le décor, j'aime bien.
Moi, je pourrais rien faire sans les équipes, hein, c'est un travail collectif. Hein, je pourrais rien faire sans Jimmy Brown et tous les gars qui sont derrière les consoles. Voilà, on vous attend au 32-16, bien entendu. On vous attend au 32-16 pour réagir avec Jonathan Macardy, avec Simon Dutin, avec Walid Acherchour. Venez nous donner vos doutes, vos certitudes après ces deux matchs de l'équipe de France. À tout de suite sur RMC. On est sur Twitch et sur TikTok ce soir.
Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là?
Écoute, je swipe sur l'appli Betson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betson. Télécharge l'appli Betson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr. 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Simon Dutin, Jonathan McCarty, Walid Acherchour avec vous sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. On est en direct sur la chaîne RMC Sport Twitch et sur TikTok également ce soir. On vous pose cette question, on vous attend pour y répondre au 32-16. Quels sont vos doutes et vos certitudes après les deux matchs de l'équipe de France, après le 1-0 d'hier en Irlande, après le 4-0 face aux Pays-Bas? Alors, vous trois, vous avez donné vos trois doutes, vos trois certitudes. Alors, il y a des points convergents. Je pense notamment à Colomouani, latéral droit, il y a un doute. Maignan également, vous étiez certain de le citer aussi. Colomouani, tout le monde est d'accord. Indéboulonnable,
c'est difficile,
déjà.
C'est difficile d'être, de ne pas être d'accord avec ça. Après, ça, tout va très vite. Hein. Je vous rappelle juste qu'en 2016, si on nous avait dit que Coman et Martial ne seraient pas dans la liste en 2018, personne n'y aurait cru. Donc on sait comment ça se passe. Il est arrivé dans un nouveau pays, sur une nouvelle expérience. Il a découvert la Ligue des Champions. Il s'est tout de suite mis au niveau. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa marge de progression. Et puis, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors, je vous racontais une mini anecdote. C'était pour Marseille-Francfort, le premier match de Ligue des Champions de l'OM. Donc je me suis rendu sur place, j'étais invité et j'étais dans le même hôtel que les joueurs de Francfort. Et je prends l'ascenseur, je tombe sur Randal Kolo Muani. Je pense qu'il écoute l'after parce qu'il m'a souri. Et en fait, c'est physiquement, il est monstrueux. Il est hyper costaud, il est hyper balèze, c'est une armoire à glace. Donc je pense qu'il a vraiment, toutes les qualités d'un attaquant moderne. Il a les capacités techniques, il a les capacités physiques. Et moi, je demande vraiment à voir son évolution sur les prochains mois. Mais je suis persuadé, contrairement à Coman et Martial, qui sera dans le groupe à l'Euro et qu'il aura un rôle prépondérant.
Mais justement, Joe, t'as raison de parler de son physique parce qu'on en parlait la semaine dernière ici avec Oussem. Effectivement, par rapport à tous les clichés qui sont véhiculés par les mecs de cette envergure, de cette taille, de ce physique-là, il est là où tu l'attends pas. C'est-à-dire qu'il a une panoplie et Dieu sait que je l'ai critiqué ou en tout cas j'ai émis assez de doutes quant à sa progression et notamment quand on commençait avec son début de saison à nous vendre le fait qu'il allait coûter 120 millions l'été prochain, tout ça, machin. Parce que pour revenir sur ce que tu disais sur Martial et Coman, on nous aurait dit en juin qu'on serait en train d'avoir ces conversations-là sur Kolo Muani, on n'aurait pas acheté non plus, tu vois.
Bien sûr. Comme quoi, tout va très vite.
Je trouve qu'effectivement, avec son physique, il a une façon de jouer très atypique parce que il porte beaucoup le ballon. C'est impossible de lui prendre la balle. Et quand je dis porte la balle, il joue pas que, voilà, dos au but, tu vois, la sempiternelle remise. Il est capable de provoquer balle au pied, de dribbler, de faire la dernière passe, de créer du danger là où t'attends pas forcément un mec de quasi 1,90 dans ce rôle-là.
Non, mais Walid, tu l'as mis dans tes certitudes aussi.
Non, mais tout a été dit. On l'appelait la titularisation contre les Pays-Bas de nos voeux. On l'a vu même dans un autre registre où je trouve que sur les 20 premières minutes contre l'Irlande, dans une première mi-temps qui a été un peu morose, ça a été l'un des seuls, voire le seul à faire la différence balle au pied, en faisant avancer le jeu avec une vraie conduite de balle qui a perforé le bloc bas des Irlandais. Donc moi, je j'ai pas de doute sur lui. Après, on sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura un énorme transfert, une énorme attente, qu'il sera dans un club, je sais pas. Peut-être qu'il va aller en première ligue, il sera un peu moins bien. Le football va très très vite dans le bon sens comme dans le mauvais. Et Jonathan le disait tout à l'heure, avec Didier Deschamps, quand tu démarres un cycle, l'équipe qui démarre un cycle, c'est rarement celle qui l'a fini. Ouais. Faudra revoir où était Kolo Muani en 2020 et où était Kolo Muani fin 2022 à la finale contre l'Argentine. Donc voilà, à surveiller. Maintenant, quand on voit ce qu'on a en magasin au poste de numéro 9, on n'a pas non plus, puisqu'on parle souvent de vivier extraordinaire en équipe de France aujourd'hui, et on n'a pas des numéros 9 à l'appel. Hein. Donc Kolo Muani s'impose logiquement par rapport à ce qu'il réalise en club et en équipe de France.
Justement, puisqu'on parle des attaquants, j'aimerais qu'on accueille Baudouin. Ça fait un petit moment qu'il nous attend, il nous a appelé au 32-16. Salut Baudouin.
Salut Baudouin.
Bienvenue Baudouin. Alors, tu voulais pas vraiment parler de Kolo Muani, mais toi, parmi les doutes, il y a un joueur offensif qui te pose question également dans ce schéma, finalement, dans ce jeu prôné par Deschamps.
En fait, j'ai bien écouté tout ce que vous disiez. Je suis globalement assez d'accord avec tout ce qui a été évoqué. Mais in fine, ce qui me dérange un peu, là où il y a un axe de progression, c'est comment jouer face à une équipe qui ferme complètement et quand on ne peut pas mettre Mbappé dans les meilleures dispositions. Parce que Mbappé, hier, c'est pas son meilleur match en deux.
Il n'a pas été bon. Ouais.
Alors, est-ce que c'est lui qui n'a pas été bon? Est-ce que c'est pas plutôt les Irlandais qui ont été plus intelligents?
Il n'avait pas d'espace.
En le verrouillant, parce que la transmission pour Mbappé hier, elle était juste impossible, et il avait que des ballons à arrêter.
Je pense que c'est plus compliqué que ça,
Baudouin. Il n'y a rien. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce qui est valable pour Mbappé, elle est valable aussi en face. C'est-à-dire que l'équilibre de l'équipe doit pouvoir faire en sorte que Mbappé puisse prendre la vitesse. Je ne dis pas qu'il faut jouer à 20 mètres devant nos buts, mais il faut à Mbappé 20 mètres de démarrage. Et c'est là où il les dépose, ouais. Les gars.
Pas forcément, Baudouin. Que... Je vous coupe juste deux secondes, les mecs. C'est fini entre l'équipe de France Esport et l'Espagne, Pierre-Yves Leroux, à Vannes. Hein.
Oui, exactement. 0-0, fin de ces matchs de préparation à l'Euro. Rendez-vous à Cluj maintenant, en Roumanie. Ça sera du 21 juin au 8 juillet pour les hommes de Sylvain Ripoll. Mais on a vu plutôt une belle équipe de France ce soir.
Merci beaucoup, Pilin. Toutes les réactions à venir sur rmcsport.fr. Baudouin, vas-y, excuse-moi,
termine. Ouais, non, pas de problème. Et donc, du coup, Colomouani, pour moi, il doit progresser, Colomouani. Il est bon, il n'y a pas de problème. Mais de là à l'installer comme un titulaire indiscutable, faire gaffe de ne pas aller trop vite.
Oui, personne n'a pas d'être titulaire indiscutable, mais sur le rassemblement, quand même, il fait partie des tops, Colomouani. Quand tu vois la pression d'Olivier Giroud hier, qui a été très très compliquée, quand tu vois le dynamisme qu'il a apporté, même le discours de Kylian Mbappé après les Pays-Bas, on se dit quand même que dans le baromètre, il est...
C'est bien que je parle de Giroud et que tu parles de la prestation d'Mbappé contre l'Irlande, parce que c'est ce que je voulais intégrer dans le débat de lancé par Baudouin. C'est qu'à mon sens, c'est très difficile de à la fois juger Mbappé, Giroud et Colomouani, même si Colomouani s'en est plutôt bien sorti contre l'Irlande, dans la mesure où je pense que ce trio est tout sauf complémentaire. Les trois ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Footballistiquement, il y a besoin quand même d'un minimum de complémentarité. Et quand tu regardes les joueurs que tu as à ta disposition sur le banc, je pense notamment à Kingsley Coman, Dembélé qui est toujours dans le secteur, je pense que mettre ces trois-là, qui sont des joueurs qui ont une tendance naturelle, encore plus pour Giroud qu'une tendance, mais une tendance naturelle à repiquer vers l'axe, tu te coupes de beaucoup de possibilités. Après, et dans l'animation.
Attention, Jonathan, parce que hier il lui envoie quand même un signal. Hein. Il rentre pas, parce que c'est Djabi qui rentre. Il est sorti à la 60e contre les Pays-Bas. Après une première mi-temps qui a été moyenne. Moi, j'aime beaucoup Kingsley Coman avec le Bayern notamment, mais pour l'instant, on n'a pas tout le temps.
Mais c'est le système, Walid. Est-ce que tu es d'accord
avec moi ? Dans les fameux doutes qu'on n'a pas évoqués, il y a aussi ce côté droit. On l'a dit. Oui, mais l'ailier droit entre la fin de Coupe du Monde de Dembélé, la blessure de Dembélé, Colomouani qui n'est pas un ailier, Diaby qui fait des rentrées sympatoches, mais bon, il casse toujours pas la baraque, et un Coman qui est un peu décevant, ça aussi, ça va être à suivre.
Est-ce que tu es d'accord pour dire avec moi que. Comment c'est peut-être moi je pense que c'est le meilleur ailier du monde, mais qu'il est au moins dans le top 5.
Je sais pas si c'est le meilleur ailier du monde, mais oui,
je suis un des 5 meilleurs ailiers du monde. D'accord.
S'il n'est pas blessé,
moi je pense que ses prestations qui sont loin d'être au niveau de celles qu'il est capable de faire au Bayern, simplement dû au système.
Peut-être.
Tu as des joueurs qui ont une complémentarité qui pour moi sont
évidentes. Après c'est un ailier, mais est-ce que c'est un piston? Enfin est-ce que c'est un latéral? Parce que là c'est quasiment un latéral qui joue.
Dans cette espèce de 4-3-3, tu peux très bien l'imaginer jouer attaquant de couloir.
Après il doit aussi s'émanciper.
Il a déjà joué là. J'imagine même jouer à la place d'un Pavard dans un match fermé.
Mais Nico, il le fera jamais.
Il l'a fait une fois déjà.
Il l'avait évoqué.
J'ai l'impression de voir les débats d'il y a deux ans.
On sait qu'il le fera.
Après le Kazakhstan où il avait fait un super match notamment.
Baudouin, merci d'avoir été avec nous.
Juste, je voudrais finir avec juste un truc. Griezmann, dans ce qui est rassurant, c'est qu'il est toujours notre ADN. On a un top gardien qui est venu. Alors, je voudrais juste finir avec un truc qui, à mes yeux, est hyper important. Tout le monde essaye de déglinguer Pavard. Moi, je lui tire mon chapeau parce que après la Coupe du Monde qu'il fait, où il est passé au travers, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Attention, on ne fait que de la spéculation. Mais il cire le banc pendant la Coupe du Monde. Il revient, il nous fait gagner hier. Bravo à Pavard, bravo à Didier Deschamps qui a managé le bonhomme comme il faut. Et ça...
Le management de Deschamps sur Pavard. Je sais pas si on a le temps, mais faudrait en parler.
Pavard, on en dit ce qu'on en veut. Moi, je pense, je suis pas fan de ses qualités, notamment au poste de latéral droit. Mais faut reconnaître une chose, c'est que il en a des grosses.
Merci
Baudouin.
Salut Baudouin.
Bonne soirée, à bientôt Baudouin. Tiens, dans un instant, on va ouvrir le dossier Griezmann et on va évoquer le cas Rabiot. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur ces deux joueurs également, dans les doutes et les certitudes. On vous attend au 32-16 avec Walid Acharchour, avec Jonathan Macardy, avec Simon Dutin. Vos doutes, vos certitudes après ces deux matchs des Bleus, Griezmann, Rabiot au programme. Et puis la vie tranchée également de Walid Acharchour dans quelques instants. Eduardo Camavinga est le grand gagnant de ce rassemblement. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Walid Acharchour, Simon Dutin, Jonathan Macardy avec vous en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport. Voilà, avec Sacha qui est aux manettes ce soir, sur la chaîne TikTok également.
Sacha, tu sais qu'il est venu s'entraîner avec nous.
C'est pas vrai.
Il est sorti, il est en PLS, le pauvre. Il s'est fait étrangler dans tous les sens. Alors j'espère, Sacha, coucou, que tu vas revenir quand même, hein, comme Alexandre Herbinet, mais promis, on sera gentil avec toi. Mais reviens.
On est en train d'égrener vos doutes et vos certitudes après les deux matchs des Bleus, les deux succès face aux Pays-Bas et à l'Irlande. Alors, vous aviez pas mal de points communs. Vous aviez aussi des axes de désaccord. Et notamment un, c'est Griezmann. Walid, toi, tu disais Griezmann, pour toi, c'est une certitude.
Non, non. Simon.
C'est ça. Simon.
Simon a dit.
Oui, c'est Simon.
Simon a dit que c'était une certitude.
Et pour toi, c'en est pas une, Jonathan. Alors vas-y Simon, pourquoi c'est une certitude pour toi, Griezmann? T'avais un peu commencé tout à l'heure, mais
je vous le résume. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il a ravalé sa frustration, qu'il était très attendu évidemment après l'histoire du Capitana. Aurait-il digéré effectivement le fait que Mbappé lui soit préféré? Et puis il y a ce nouveau positionnement en équipe de France depuis le Mondial. A priori contre nature par rapport à ce qu'on pense connaître de ses qualités, par rapport à ce qu'il a fait durant l'essentiel de sa carrière. Et puis bah voilà, il est buteur, il est passeur, quasi passeur, influence sur le jeu. Il y a qu'à voir sa heat map, tu sais, la carte des endroits où il a évolué sur le terrain face aux Pays-Bas, c'est absolument monstrueux. Il est aux quatre coins du terrain.
Contre les Pays-Bas, oui.
Contre les Pays-Bas, je l'ai trouvé vraiment excellent.
Sur les deux matchs,
hier, après, je vous laisse, votre avis.
Hier, t'as trouvé pas, attends, attention, c'est pas le même registre, mais encore que c'est la même zone. T'as trouvé Rabiot meilleur que Griezmann?
Non, j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps, moi, Rabiot qui est monté en puissance. Maintenant, Griezmann a été intelligent dans ses déplacements, etc. Mais face à un bloc bas.
Voilà.
Un numéro 10, à la création, un numéro 10, numéro 8. J'aurais aimé en voir un peu plus parce que j'ai un peu plus d'exigence dans la création d'un Griezmann que d'un Rabiot. Moi, j'ai trouvé que Rabiot, il a eu 2-3 pressings gagnants en début de deuxième mi-temps qui a donné le large et surtout que sur le côté gauche entre Mbappé et Théo Hernandez, que j'ai trouvé vraiment moins bien hier. J'ai trouvé que c'était l'un des seuls mais Griezmann, si on autant contre les Pays-Bas, j'ai trouvé vraiment vraiment resplendissant, autant hier. Ouais, voilà, il a fait son match, mais je vais pas tomber des nues après le match de Griezmann hier.
Non, je vous demande pas de tomber des nues, mais pourtant.
Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Simon.
L'intelligence, et effectivement, je le disais en intro de l'émission, des choses qui sont pas forcément quantifiables via des stats, effectivement. Ouais, mais... Les redoublements de passes, les déplacements, les solutions qu'il propose, les passes dans l'intervalle, l'intelligence. Ah, que ça ronronne,
ouais,
tout le monde a ronronné hier.
Extrêmement fan de Griezmann. Je pensais même à un moment que ça devait être le numéro 9 des Bleus, surtout quand il jouait 9,5, enfin derrière Costa à l'Atlético. Pour moi, ses qualités premières, c'était son sens du but, le fait qu'il soit vraiment tueur à ce moment-là face à l'Atlético. C'était un vrai renard des surfaces. C'est un joueur qui est fin, c'est un joueur qui a une vision du jeu qui est superlative. Mais mes doutes, c'est pas sur la qualité du joueur, je le redis, c'est sur deux choses. La première, c'est est-ce qu'on peut vraiment se permettre de construire un projet, un cycle de 2 ans qui va amener jusqu'à l'Euro avec un joueur qui, j'insiste, est sur la pente descendante physiquement.
Après, il est mieux avec l'Atlético Madrid.
Il est mieux depuis 2-3 mois.
Il y en a qui te disent que c'est le meilleur joueur du gars depuis la Coupe du Monde.
Il est mieux, mais je trouve qu'on est encore loin de ce qui faisait sa force auparavant. Oui. À ce poste-là, c'est-à-dire beaucoup plus reculé, il va lui falloir beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de joueurs qui ont reculé au fur et à mesure de leur carrière et qui ont eu beaucoup de succès sur le tard aussi. Je pense à Bastian Schweinsteiger, notamment, quand l'Allemagne gagne la Coupe du Monde. Mais mon deuxième doute, c'est là où tu l'as dit, c'est-à-dire ce que je voulais dire, c'est que face au bloc bas, j'attends quand même un petit peu plus du milieu de terrain en général de l'équipe de France. Je sais que Deschamps n'aura pas de très grandes idées.
Non, mais là, c'est pas forcément la faute de Griezmann, c'est un problème d'animation.
Bah, justement, je pense qu'avec cet entraîneur-là, il a re-signé, il est là, il faut le prendre en compte. Griezmann ne pourra pas être valorisé à ce poste-là. Et je pense que, quitte à jouer all-in sur la stratégie de Deschamps, c'est absolument pas ce profil de joueur sur lequel
mais après, juste pour terminer, Nico.
Vas-y, j'aimerais qu'on parle de Rabiot après.
C'est qu'en fait, sur Griezmann, hier, il y en a qui disent qu'il a fait un bon match, etc. Mais si on doit satisfaire de nos leaders, moi, hier, offensivement, on a parlé de Colomoni tout à l'heure, mais Mbappé leader, Griezmann leader, Olivier Giroud normalement leader. Moi, j'ai trouvé que le volume d'occasions qu'on a eu contre les Irlandais, on parle de l'Irlande. Alors hier, on en a fait des tonnes en disant oui, personne va s'imposer en Irlande, etc. Mais 3 jours avant, on était la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs au monde. Et là, on doit satisfaire. Moi, Griezmann, hormis la tête en première mi-temps là, où il reprend un centre de Pavard, il me semble, à aucun moment il s'est mis en situation de tir. À aucun moment j'ai vu des circuits. Donc ça quand même, quand on est numéro 10, numéro 8 et dépositaire du jeu de l'équipe de France, on peut pas s'en satisfaire non plus, quoi. Maintenant, contre les Pays-Bas, là où je rejoins Simon, là oui, je trouve qu'il a répondu présent, même dans l'image, l'histoire de avec Mbappé, je trouve qu'il a très bien joué le coup.
Les célébrations et tout, ils ont été.
Et il faudra voir, mais bien évidemment qu'il faudra compter sur Griezmann. Tant que Deschamps est là, Griezmann sera là, je pense.
Alors, on va évoquer Adrien Rabiot. Alors, Kylian Mbappé, on avait dit le plus grand bien avant le match des Bleus d'hier face à l'Irlande. Il s'est imposé au milieu de terrain de l'équipe de France. Alors, sa prestation d'hier a pas franchement convaincu. Hein, vous êtes tous d'accord là-dessus. Hier, si vous avez écouté l'after, vous avez pu entendre d'ailleurs l'échange entre Daniel Riolo et Flo Gautreau à ce sujet. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Allez le podcaster si vous n'avez pas écouté. fait. Alors Rabiot est-il devenu un patron de l'équipe de France? Voilà comment il analysait sa progression hier. C'était au micro de la chaîne L'Équipe.
Je progresse dans mon football. J'avance dans la vie aussi, avec plus de maturité. Mon passage en Italie aussi, footballistiquement parlant, me fait du bien. Non, c'est un tout, mais peut-être que surtout l'image des gens aussi a changé. Moi, non, je pense pas avoir changé tant que ça.
Voilà, Adrien Rabiot, donc c'était hier sa réaction. Est-ce que vous pour vous, c'est devenu un leader de l'équipe de France au milieu de terrain, Adrien Rabiot.
Leader, j'irai pas jusque là.
En termes de jeu, c'est un leader de jeu parce qu'il est fiable, il est toujours présent. Non, leader de jeu, il y a leader de jeu. Pour moi, c'est un leader de jeu. Okay. C'est vrai que la dimension qu'il a pris, notamment en Italie, faut voir à la Juve, hein, c'est quasiment tout le temps l'homme du match côté Juventus. Donc voilà, c'est un joueur qui, je le répète, a toujours eu pour moi un potentiel superlatif, qui avait du mal par nonchalance, par le fait de son comportement, à vraiment l'exprimer sur le terrain. Bah pour moi, là, il est en train d'exprimer tout son potentiel. Et je persiste et je signe. Je sais qu'on sera pas tous d'accord, mais pour moi, c'est le milieu de terrain qui a le plus de talent et de potentiel en équipe de France à l'heure actuelle.
Ça, je suis pas d'accord, mais.
Ouais, vas-y, alors.
Chacun ses goûts là-dessus, mais. Pour moi, la première mi-temps de Rabiot, elle est pas bonne comme l'équipe de France, mais en deuxième mi-temps, je répète, je trouve qu'il a donné une impulsion. Et contre les Pays-Bas, rappelez-vous des 10 premières minutes, c'est lui qui va faire ses deux premiers pressings gagnants avec Colomoigny et Griezmann pour aller chercher ces grosses occasions et mettre la pression au milieu de terrain des Pays-Bas. Il fait pas tout parfaitement, mais je trouve que déjà dans l'équilibre que veut Didier Deschamps, Mbappé l'a répété, c'est hyper important parce que c'est lui qui comble un peu les brèches parce qu'on a un côté gauche qui est très porté sur l'offensive et on utilise énormément le côté gauche contrairement au côté droit avec Théo Hernandez et Kylian Mbappé, et lui est obligé de compenser énormément, donc il est dans un rôle et dans un registre que lui demande Didier Deschamps, donc ça aussi il faut le prendre en compte dans l'analyse. Et moi je trouve que la Coupe du Monde lui a fait quand même le plus grand bien. Que moi j'attendais au tournant sur cette Coupe du Monde, que j'étais pas un grand fan de Griezmann, de Rabiot, que ce soit sportivement ou même extra sportivement dans ses déclarations, dans ce qui se passait avec sa maman, etc. Et aujourd'hui, il faut le dire, quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut. En ce moment, il fait beau. En ce moment, il fait beau avec Rabiot. Maintenant, on n'est pas sur une canicule tout le temps, mais
il est régulier.
Mais voilà, mais c'est ça, mais
tu sais, juste par rapport à ce que tu dis sur le changement, moi, c'est quelque chose que je sais de son entourage et en direct, c'est qu'en fait, il a vraiment, enfin, pris conscience qu'il aimait le foot. Et ça fait toute la différence. Ça pouvait ne pas forcément être le cas au PSG. Et juste pour finir là-dessus, quand je te dis que c'est celui qui a le plus de potentiel, c'est parce qu'il a le meilleur mélange entre potentiel physique, athlétique, jeu de tête, jeu qualité technique,
et intelligence de jeu.
C'est le mélange idéal.
Simon, vas-y.
Moi, j'ai un peu de mal avec Rabiot à l'évaluer, évidemment. Il a pris une dimension. Pas assez offensif, pas assez défensif. C'est un mec hybride qui.
D'ailleurs, on a souvent eu du mal à déterminer quel était son
meilleur poste. Football moderne, tu sais pas exactement quel est son poste. Faut quand même se rappeler de qui on parle. Hein. C'est un mec qui a 14 ans par à Manchester City, donc estampillé gros espoir du football français. Il joue pas assez, il s'entend pas avec l'entraîneur. Maman siffle la fin de la récré, fait les bagages et dit qu'on rentre en France.
Gros problème familial aussi.
Il y a donc un mec, un des rares quand même avec Kimpembe qui a réussi à sortir de l'étang au milieu des Zlatan, des Verratti.
De caractère,
la politique, donc exactement, énorme mental. Moi, je le croyais perdu pour la nation parce que quand il a mis un coup de canif dans le drapeau, tu sais, c'est il refuse d'être
réserviste.
Moi, je t'aurais signé que Deschamps le reprendrait jamais. Tu vois, trahison à la nation, mais tu vois, ce genre de truc-là. Il revient derrière. Il est dans un contexte où il y a quand même, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a quand même deux légendes qui sont au garage, hein, Pogba et Kanté. Qu'est-ce que tu fais de Rabiot si ces deux mecs-là reviennent un jour au top niveau? Est-ce que c'est Rabiot ton troisième gars au milieu de terrain?
Et l'âge et les blessures, Simon, rattrape tout le monde, y compris Kanté et Pogba.
Ce que je veux dire, c'est que pour terminer, effectivement, et vous avez eu raison de le souligner, il arrive à la Juve, comme il arrive libre, ils lui font un pont d'or, il est quoi, troisième salaire de Serie A à l'époque, je sais pas, peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont passés devant, mais je veux dire, il y a un statut à assumer. Pour les supporters de la Juve, c'est quand même personne, tu vois. Il a réussi à s'imposer dans une équipe qui allait pas bien. Je suis partagé, j'arrive pas à savoir vraiment, et encore moins avec le match d'hier, si c'est un des leaders, parce que de quoi on parle, un des 3-4 qui va emmener le reste de l'équipe.
Non.
Moi, je suis un peu mesuré là-dessus, quoi.
On a que Kevin qui nous a appelé au 32-16. Salut Kevin.
Salut, bonsoir
Kevin.
À tous.
Salut Kevin. Alors, t'es supporter de la Juve, Kevin.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que t'en penses de Rabiot? Alors, déjà, à la Juve. Alors, beaucoup disent, ouais, mais il est ventre mou. Oui, mais on rappelle que la Juve, ils ont pris 15 points de pénalité et que
il devrait être deuxième,
points,
normalement.
Voilà, il serait deuxième au classement de la Serie A.
C'est exceptionnel.
Oui. Qu'est-ce que t'en penses de Rabiot, toi, Kevin?
J'étais longtemps partagé, comme certains d'entre vous, sur Rabiot. Quand il est venu, j'étais pas forcément pour. Et puis bon, ça fait quand même 4 saisons qu'il est là. Je pense que franchement, sur les 4 dernières saisons, ça doit être celui qui a joué le plus. Déjà, donc ça donne. Et il a joué sous Sarri, sous Pirlo et Allegri. Je crois que depuis qu'Allegri est revenu, ça fait 2 saisons maintenant. Je crois que rares ont été les matchs où il a pas démarré titulaire.
Il y a une petite période au début. Une petite période au début où il était un peu remplaçant.
Après, tout n'a pas été grandiose non plus sur ces 4 saisons, loin de là.
Non, mais
on est dans une très belle période, mais.
Par contre, cette année, s'il est bon, c'est parce qu'il joue à son poste, c'est-à-dire dans un milieu à 2 ou à 3. Et là, alors que Allegri l'an dernier l'utilisait beaucoup sur le milieu gauche. Le fait d'avoir recruté Kostic cette année a fait que Allegri a trouvé son vrai ailier. Il a arrêté de faire n'importe quoi avec Rabiot, de le faire jouer ailier gauche ou milieu gauche ou je sais pas. Enfin, le nombre de matchs où j'ai vu démarrer Rabiot et milieu gauche, et ça me rendait fou.
Il jouait presque piston en fait, l'année dernière. Voilà.
Et du coup, moi, je trouve que là, il est beaucoup plus intéressant. Il a quand même, enfin, je trouve que cette année, en tout cas, il a un volume de jeu. Il récupère des ballons. Il se projette vite vers l'avant. Il a compris aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'il arrête de se raconter des histoires. C'était pas Pogba, c'était pas Griezmann. Il est Adrien Rabiot, peut-être un profil un peu atypique qu'on a du mal à ranger dans une cage. Moi, je le mettais plus proche aujourd'hui, en tout cas dans mon esprit, il est plus proche d'un Matuidi, c'est-à-dire un soldat, un mec qui va gratter des ballons, un mec qui va réussir aussi à être un peu dans les 30 derniers mètres. Et pour moi, il est plus proche de ce type de profil-là. Je pense qu'il l'a compris, qu'il fallait qu'il arrête aussi peut-être de se vouloir être trop beau sur un terrain.
Il est garant de l'équilibre.
Et voilà. Et je pense que c'est tout à son honneur. C'est dommage que, en tout cas, moi je le vois comme ça. C'est dommage que ça arrive que maintenant cette éclosion, parce que je pense qu'on l'aurait prolongé beaucoup plus tôt s'il avait fait cette saison-là. Et là, je pense qu'on n'arrivera pas à le prolonger parce qu'il va demander un salaire mirobolant. Et ça sera bien dommage, en tout cas pour nous.
Après le Kevin, merci d'avoir été avec nous.
Ouais, Nico.
Je t'en prie.
Ciao Kevin.
Merci Kevin. Merci Kevin.
Après, il y a ton avis tranché.
Très rapidement, mais après Nico, le gros problème, c'est que face au bloc bas, avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain, notamment dans la création, on dit souvent il est garant de l'équilibre. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de garants de l'équilibre. Quand il y a trop de garants de l'équilibre, malheureusement, il y a très très peu de créativité.
Après, quand il fait beau, il fait beau. Hein.
Exactement. Quand il pleut, il pleut.
Voilà.
Quand il neige.
Dans un instant, la vie tranchée de Walid Acherchou. Hein. Eduardo Camavinga, le grand gagnant du rassemblement de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On vous attend au 32-16 avec Walid, avec Jonathan Macardy, avec Simon Dutin. Et puis on est toujours sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et sur TikTok.
C'est comment la Twitcherie?
Eh bien, écoute, on va la regarder. Tu sais quoi, j'aime brancher. Je vais dire 2-3.
Branche-toi sur la Twitcherie, la
TikTokerie. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Jonathan Macardy, Walid Acherchour, Simon Dutin sont là jusqu'à 22h. On est là jusqu'à minuit. Après, l'after prendra le relais avec Nico Jamin notamment. On est en train de faire les doutes, les certitudes après les deux matchs de l'équipe de France, la victoire face à l'Irlande et face aux Pays-Bas. Alors tu sais quoi, changement de dernière minute Walid, parce que là pour rien vous cacher, hein, vous cacherez dans l'after, vous le savez, ni dans Génération After. On était parti sur un avis tranché, Eduardo Camavinga, le grand gagnant de ce rassemblement de l'équipe de France.
Jérôme Breton a dit que c'était nul, donc Walid.
Non. Et pendant la pause, t'as eu une fulgurance, Walid.
Coup de frein à main.
Sur Maignan, Loris. Et alors, je vais pas spoiler. Jingle, Walid, d'abord.
Pablo Neruda, qui était-il, Walid, quand même?
Pablo Neruda, qui était le milieu de terrain de Cadiz.
Allez, on va arrêter là-dessus. Excellent,
Il est bon.
Je te ferai jamais de vanne comme ça, parce que je suis comme toi, je sais pas qui c'est.
Exactement.
Voilà, c'est alors que toi. Nico, il est tout le temps dans la condescendance.
C'est pas carrément.
Non, il snob un peu, tu vois.
Tu peux nous relimiter, Nicolas?
Je le fais pas très bien, Nicolas.
Il l'a pas.
C'est pas celui que je travaille le plus, Nico.
Ah, je crois que c'était pas malade.
Non, c'était pas ouf. Alors,
je voulais parler.
Alors, vas-y, il y a un truc que tu nous disais pendant la pause, on s'est dit avec Simon et Jonathan, mais vas-y, parle là-dessus.
Non, mais c'est vrai que je voulais parler de Camavinga, mais par rapport à ce qu'il a fait sur le match d'hier et sa concurrence avec Tchouaméni, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France.
Mais il y a un truc
un truc qui me chafouine un petit peu là depuis hier, hein, que ce soit sur le réseau ou même chez les observateurs, c'est qu'on j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de s'extasier sur Mike Maignan et sur ce qu'il réalise depuis deux matchs avec l'équipe de France, même s'il y en a qui reprocheront un peu la culture de l'instant. Mais Mike Maignan, ça fait quand même un bon bout de temps, pour ceux qui suivent la Serie A ou même la Ligue 1 avec Lille, qu'on connaît ses qualités
et son potentiel. Et en faisant ça, en étant dithyrambique sur Mike Maignan, beaucoup nous reprochent entre guillemets de manquer de respect à Hugo Lloris. Mais en fait, on peut tout dissocier. On peut dire que Hugo Lloris a été un gardien extraordinaire avec l'équipe de France dans les compétitions internationales, même s'il avait quelques défauts, et notamment les deux dernières séances de tir au but. Mais c'est pas dénigrer Hugo Lloris. Et on peut aussi s'extasier sur Mike Maignan et sur ce qu'il peut apporter sur les 5-6 prochaines années au très très haut niveau en équipe de France. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... On n'a pas le droit de...
En fait,
de...
si t'aimes l'un, ça veut dire que tu détestes l'autre.
Oui, voilà.
C'est comme Messi, Ronaldo.
Non, mais on peut dissocier. Et personne... Toute personne sérieuse qui ont vu l'équipe de France en Coupe du Monde ou à l'Euro sur les dernières échéances connaissent la valeur de Hugo Lloris. On a tous vu la finale avec cet arrêt monstrueux sur Lionel Messi à la 94e minute. On a tous vu cette parade contre l'Uruguay, ce match contre la Belgique. On a aussi vu la séance de tir au but contre la Suisse. On a aussi vu la séance de tir au but contre l'Argentine. Ça fait partie de l'histoire d'Hugo Lloris avec ses très très bonnes choses, ses moins bonnes. Et Mike Maignan, il y a un vent de fraîcheur, il y a un truc subjectif aussi qu'on a le droit de kiffer.
Est-ce qu'il faut s'enflammer, c'est ça la question?
Non, mais
aussi.
Encore une fois, on a le droit de prendre ce que fait Maignan avec l'AC Milan, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions cette saison encore avec son match contre Tottenham, de voir que la palette globale de Mike Maignan, que ce soit dans la relance, sur sa ligne, sur sa capacité à être aussi spectaculaire, c'est aussi subjectif. Le football, on a le droit de préférer des gardiens tout en respectant les autres. Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais même dans la profession actuellement, et j'ai vu quelques journalistes, c'était attention, Hugo Lloris, il faut rien dire sur Hugo. Oui, Hugo Lloris est une légende de l'équipe de France. Maintenant, on a le droit aussi de s'extasier sur Mike Maignan.
Mais je pense qu'il y a deux facteurs qui font qu'on en arrive à cette situation. Je trouve ça un peu curieux que dans une société où on fait la promotion de la non-binarité, les gens réagissent de manière aussi binaire. C'est soit tout noir, soit tout blanc.
Oui, voilà.
Soit tu es pour, soit tu es contre.
Moi, ça, j'aime bien le gris, moi.
Assez, voilà, c'est très bien. Et la vie est une longue succession de nuances de gris. Dans tous les sujets, dans tous les domaines. Malheureusement, les gens réagissent un petit peu bêtement. Et donc, forcément, toi, t'aimes bien les nuances de gris. Les gens réagissent un petit peu bêtement. Et du coup, voilà, ça donne cette situation où forcément, si t'aimes Maignan, c'est dénigré, Lloris. Et il y a un deuxième aspect. Vous avez pensé que je vais peut-être un petit peu trop loin.
Ce qui est rare, d'ailleurs, chez toi.
Tu fais jamais ça.
C'est très rare. Dans leur pondération.
Vraiment, t'es pas le.
Je pense que je suis le plus mesuré.
Tu mesures combien? D'accord.
C'est moi le plus grand du plateau. Je pense qu'il y a quand même un truc un peu puant derrière tout ça.
C'est-à-dire.
Du racisme?
Pas du racisme, mais un racisme. Oui, si, une sorte de discrimination un peu latente. Il y a une certaine frange de la population, parce que j'ai vu des tweets passer. Il y a une certaine frange de la population qui se targuait d'avoir le capitaine de l'équipe de France, qui était un bon français pour parler d'une manière un peu abjecte. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même ça qui est en filigrane. Je te dis pas que c'est l'explication numéro un, mais quand tu prends la température comme tu l'as fait sur les réseaux, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de réaction.
Non, mais
très sous influence.
Après, sur les réseaux, tu trouveras peut-être qu'il y a aussi une frange, t'as raison.
Quand je parle de réseau, il y a aussi des confrères et des journalistes qui s'exclament là-dessus. Attention, avec Maignan, il a rien fait.
On dit les réseaux, il faut pas donner trop d'importance aux réseaux. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, les réseaux, ça fait partie de la masse d'informations et des flux d'informations qui circulent.
Simon,
et on est obligé de prendre en compte.
Vas-y, Simon, t'as pas entendu sur la comparaison finalement qui a l'air fatale entre Lloris et Maignan. En même temps, on est obligé de la faire, mais. Même si c'est dur de comparer le recordman de sélection avec un gars qui vient d'arriver. Mais...
Effectivement, moi je me suis beaucoup battu tant que Lloris était le gardien de l'équipe de France pour qu'on reconnaisse à sa juste valeur ce qu'il avait accompli sous le maillot des Bleus. J'ai pas vu, pour être tout à fait honnête, de réaction de ce type-là. Moi je pense que si tu t'enflammes pas après deux prestations comme ça de Maignan, qui effectivement, Walid l'a rappelé, était attendu par une majorité, depuis l'Euro, d'observateurs du football
on
qui attendaient
déjà
de le voir en bleu.
Du monde.
Moi, tant que Lloris était là, je me battais pour dire il a quand même gagné le droit d'attendre que le sélectionneur lui dise qu'on a trouvé meilleur. Effectivement, je trouve que ce serait absolument stupide de dévaloriser les performances de Maignan sur ces deux matchs-là. Et effectivement, ce qu'il réalise sous maillot de l'AC Milan, parce qu'on rappelle trop peu souvent quand même que lui, il est allé gagner le titre en Italie, et que ce qu'il a accompli là-bas est assez exceptionnel. Donc j'ai rien vu passer.
de ce type-là, je trouve ça évidemment complètement stupide. Et je suis pas loin de penser comme Joe que s'il y a des gens pour nous dire attendez, Loris, c'était pas bien quand même, le capitaine des Bleus, je suis sûr que malheureusement il y a une partie de ces gens-là qui placent le curseur dans une zone pas très nette sur la couleur de peau et toutes ces conneries.
Sur la représentation dans l'équipe de France basée sur la couleur de peau. Ça, c'est un argument qui est abject, mais qui est très souvent utilisé par des gens un peu bas du front.
Non, mais moi, je parlais pas forcément que des tweetos, encore une fois. Je parlais aussi de la vie publique, des observateurs. On peut aussi avoir envie de fraîcheur à un poste de gardien, où je trouve que sur les dernières années, Hugo Lloris a eu des bons passages avec Tottenham notamment, mais la vie d'un joueur n'est pas que en sélection. Nous, qui bouffons du football tous les week-ends, la hype que j'ai pour Mike Maignan, elle dure pas depuis les Pays-Bas et le penalty qui l'arrête sur Memphis Depay.
C'est ça le problème.
Donc, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est content, qu'on est aussi content qu'un gardien, parce que il y a beaucoup de gardiens, de très très bons gardiens, Sébastien Frey.
Mais tu vois, Pierre nous écrit sur le chat là de la chaîne Twitch RMC Sport, il nous dit en fait c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les gens utilisent la performance, enfin les performances sur les deux matchs de Maignan pour dénigrer Lloris.
Oui, mais ça aussi c'est
plutôt dans le sens là, si tu veux que certains vont t'aimer.
Mais ça, ces gens-là, s'ils sont sérieux, je ne pense pas que ce soit des gens sérieux. C'est-à-dire que c'est pas des observateurs qui disent ça. C'est pas possible d'avoir vu Hugo Lloris en équipe de France en expliquant qu'il a jamais fait ce que Mike Maignan a fait hier, par exemple.
Le vrai problème de tout ça, je pense il faut mettre le doigt dessus, c'est que la succession, et c'est pas quand tu dis, c'est pas aujourd'hui qu'on a découvert Mike Maignan. C'est vrai, moi je pense sérieusement que depuis la dernière saison à Lille, il a le niveau il aurait dû être installé comme numéro 1.
Il avait dit dans le CFC, je vais être du niveau de Neuer, de Oblak, etc.
Le problème, c'est que la succession d'Hugo Lloris a un peu traîné et fait que les gens se sont peut-être un petit peu impatientés. Tu parlais des observateurs, je pense que ça fait quand même trop. Depuis l'Euro, et même avant l'Euro, il y avait quand même des discussions. Depuis l'Euro, les gens attendent de voir ce passage.
Moi, je l'avais appris de mes voeux.
Depuis l'Euro, les gens espèrent que Hugo Lloris se mette de côté. Et maintenant que ça arrive, les gens ils réagissent de manière. Tu sais, comme quand t'attends un cadeau depuis très longtemps, quand tu l'as, tu fais n'importe quoi. C'est ça.
Et surtout, lui, en 10 secondes, Nico, il s'est programmé depuis très longtemps on peut rappeler quand même l'anecdote du PSG. Il est troisième gardien du PSG. À l'entraînement, Zlatan lui met filoche sur filoche et dit shit keeper. Et puis il finit par arrêter un coup franc ou un penalty de Zlatan et il répond à Zlatan shit striker. alors qu'il a 17 ans et Zlatan il s'est dit lui avec ce petit on tient peut-être quelqu'un.
Dans un instant, on ouvre la page Ligue 1. Michel Derzakarian sera notre invité dans Génération After. Ce sera sur les coups de 20h30.
T'as vu l'adaptation de la vie tranchée quand même.
Bon, 21h30, j'ai dit 20h30. Ouais, sinon on revient vers le futur. C'est le décalage horaire. Je suis plus jetlagué depuis ce week-end.
L'adaptation de Jimmy Brown, il est content un peu de l'adaptation de la vie tranchée.
Il va te le dire dans les Andes. D'accord. T'es moyen, il a dit. Voilà, c'était pas ouf.
Ok, d'accord.
À l'école, tu levais la main, c'est bien. Tiens, il y a la suite de la deuxième journée des qualifs pour l'Euro 2024. Et surprise pour l'instant, 12 minutes de jeu, l'Écosse mène 1-0 face à l'Espagne. Sinon, il y a 0-0 partout ailleurs. Dans un instant, avis tranché de Jonathan Macardy. L'Olympique de Marseille doit respecter son engagement vis-à-vis de Dimitri Payet. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Il joue pas beaucoup, mais pour Jonathan, Marseille doit respecter le contrat de Dimitri Payet, même s'il joue peu. À tout de suite dans Génération After avec Olivier Dachercheur, Jonathan Macardy et Simon Dupont.
RMC. Faire gifler de mots là, c'est incroyable.
On l'a vu en seconde mi-temps quand Nantes a un petit peu accéléré sur le champignon.
Faut quand même rendre à César les travails le gros travail qui a été mis en place.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Jonathan Macardy, Simon Dutin, Walid Acharchour avec vous ce soir en direct sur la chaîne TikTok d'RMC Sport, la chaîne Twitch également. Sacha est de retour. Pourquoi tu souris, Jonathan, c'est toi qui t'es marié? Le petit jingle, là?
Petit massage pendant la pub, c'était très agréable.
Voilà, les gens vous voyaient d'ailleurs sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Bien entendu, on va repasser à la Ligue 1, parce que la Ligue 1 est de retour à partir de vendredi. Je vous rappelle qu'à 21h30, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, adversaire de Marseille d'ailleurs vendredi, ce sera vendredi soir sur RMC, sera notre invité dans Génération After. C'est
l'équipe en forme en Ligue 1.
5 victoires et un nul.
Ouais,
incroyable, hein.
Ouais,
personne ne fait mieux sur
on va le guigner.
Hein?
On va le guigner.
Non,
tu guignes pas cette
équipe. Si ça se trouve, il nous écoute, il va plus vouloir venir, Michel.
Ah ben, c'est la tradition, hein.
Avant ça, on va parler de Marseille, justement, l'adversaire de Montpellier, ce week-end. Alors, info de la Provence. Dimitri Payet, joueur de 35 ans dont le contrat s'achève en 2024, souhaiterait aller jusqu'à la fin de son contrat. Alors, juste quand même pour vous resituer, cette saison, Payet, c'est 10 titularisations seulement avec l'OM, en 22 apparitions. Et alors, juste pour vous replonger également dans le contexte de sa prolongation, c'était en juin 2020. À l'époque, Jacques-Henri Hérault, qui était le président de l'OM,
révèle que Payet est venu vers lui indiquant qu'il souhaitait, je cite, être Marseillais à vie et qu'il a accepté une baisse de salaire de 30% sur la première saison et de 40 et 60% sur les deux années de plus. Mais à l'époque, Jacques-Henri Hérault, il dévoile autre chose. On vous a trouvé cette petite archive.
Un grand plaisir que Dimitri va prolonger deux années avec l'Olympique de Marseille, avec nous jusqu'en 2024 et au-delà, s'inscrire dans un projet de reconversion individualisée qui, je l'espère fort, l'amènera à devenir un des cadres majeurs sportifs de l'Olympique de Marseille.
Voilà, Marseille va donc devoir peut-être assumer les promesses de Jacques-Henri Hérault. Avis tranché de Jonathan Macardy.
C'est neutre, y a rien, tu sais même pas quel est leur type de jeu. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
Ça faisait longtemps celui-là.
Très bien choisi.
Ça c'est
pourquoi
ça. Non.
J'ai fini mon article pour la prochaine revue de l'After, qui est une ode
ça
aux cartes du foot. Ouais, voilà, mais c'était raccord.
Alors vas-y, toi tu dis l'OM doit assumer finalement ses engagements vis-à-vis de Payet. Est-ce qu'il doit, je vais te poser la question, ça va être dans ton avis tranché, mais assumer également les promesses faites par Jacques-Henri Hérault.
Au passage, la voix de Jacques-Henri Hérault, ça
nous avait
très,
manqué.
Ça faisait très très longtemps ça.
Moi personnellement, j'avais faim là, ça m'a coupé l'appétit. Donc tout ça pour dire que on en dit tous le des showman. Saucisses. Mais ce qui est magnifique dans ces saucisses, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a les replays, et moi j'avais fait un avis tranché après la Coupe du Monde en disant la seconde partie de saison sera celle de Dimitri Payet. J'y croyais dur comme fer. Je pensais vraiment qu'après ces 6 mois d'adaptation au style Tudor, il allait revenir. Mais force est de constater que physiquement, ça risque d'être très compliqué. Je me suis trompé. Je suis le premier malheureux, pas juste pour le plaisir d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est simplement que Dimitri Payet a été un joueur délicieux par moment à observer et à admirer à l'Olympique de Marseille. Et je pense que son avenir sportif, du moins à l'OM, est totalement terminé. Il est bouché. Malheureusement, je pense que c'est important en termes de symbole et de signal envoyé au reste des joueurs et à ce qui se passe sur le marché des transferts, que l'Olympique de Marseille respecte son engagement avec Payet. Il y a eu quand même pas mal de cas qui ont été gérés de manière un petit peu brutale de la part de Longoria. Des joueurs qui étaient indésirables, qu'on a un peu envoyés à droite à gauche sans trop prendre en compte ce qui s'était passé et les engagements qui avaient été promis.
Ou mis au
placard. Notamment à Cédric Bakambu, je pense notamment à la gestion du cas Bamba Dieng. Et je pense que Longoria, malgré tout ce qui se fait de bien, il est en train de se faire une petite réputation auprès des agents et des joueurs, comme quoi il a une gestion qui est brutale et qu'un contrat n'est pas forcément la garantie d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, un contrat est un contrat. Les clowns qui étaient à la direction précédente de l'OM ont fait des choses qui, continuent de peser dans la balance et ces gens-là ont pris cet engagement auprès de Dimitri Payet. Et je pense qu'il est important que Longoria, parce que c'est Dimitri Payet, parce qu'il a le poids de l'OM, parce qu'il a ce côté symbole, parce qu'il a cette portée médiatique, c'est important que Longoria ne fasse pas cette chose-là d'avoir ce comportement brutal et de dire qu'un contrat, il peut être cassé à tout moment, parce que c'est un très mauvais signal envoyé. Donc pour résumer, autant sur le plan sportif, j'ai eu tort et je pense que c'est fini pour Payet à l'OM, mais sur le plan de la gestion et ce qui est bêtement et simplement de la ressource humaine, c'est important que Longoria respecte ce contrat pour ne pas
y envoyer compris le projet de reconversion qu'évoque Jacques-Henri Hérault.
Et je pense que Dimitri Payet aura un rôle à jouer. Il a, du moins, quand je l'entends parler sur les 3-4 dernières saisons, il y a eu beaucoup de changements. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui comprend le foot. S'il fait ses preuves, je pense qu'il peut avoir un rôle dans l'organigramme de l'OM.
Tu le vois dans l'organigramme de l'OM, toi ?
Petit à petit, oui. Ouais. Petit à petit, pas
toi,
suite,
visiblement.
Petit à petit.
Non, je sais pas, j'ai du mal à imaginer Payet hors
il aime
foot.
Le foot. Tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il aime le foot.
Il est passionné
par
le
foot, quand il fait des analyses. Il a toujours des analyses de matchs qui sont hyper intéressantes, lucides.
Mais tout de suite, comme ça ? Je pense qu'il faudra quand même qu'il digère un peu sa carrière.
Je pense qu'il a la fibre.
D'accord.
Vas-y Simon, t'en penses quoi toi ? Qu'est-ce que l'OM doit faire avec Dimitri Payet ?
Il est malade, il nous écoute plus le pauvre.
Non, moi c'est difficile d'avoir un avis. Déjà fait assommer après avoir dit ce que je vais répéter à nouveau. Pour moi c'est toute proportion gardée. Vous emballez pas les mecs. C'est le Francesco Totti de l'Olympique de Marseille. Je le disais en début de saison quand je trouvais que Tudor il y était allé un peu fort dans son traitement, la façon de le mettre sur le banc, la façon de t'expliquer que il convenait pas à son mode de jeu. Donc je pense qu'effectivement, même si c'est pas tout à fait basé sur les mêmes arguments que Joe, quand t'as, je sais pas, des totems comme ça, des statuts comme ça dans ton effectif, dans ton histoire récente, je pense que tu ne peux que t'enorgueillir de les traiter décemment, et effectivement, d'autant plus que tu avais réussi à négocier avec lui raisonnablement un salaire digressif, tu vois, dégressif, pardonnez-moi, sur la fin de sa carrière. Donc effectivement, si tout le monde s'y retrouve et qu'effectivement lui il continue, parce que c'est quand même une immense surprise, je sais pas ce que vous en pensez, la façon dont il a accepté le rôle que minuscule que Tudor lui a conféré cette saison.
Question, c'est, est-ce que ça va continuer s'il continue de faire banquette la saison prochaine?
Moi je pense que s'il l'a accepté pour toute cette saison et qu'il a pas mis le bazar dans le vestiaire, je vois pas pourquoi il l'accepterait pas la saison prochaine.
Il est bien plus mature que le mec qui prenait le TGV pour aller à Paris.
Il m'a fait manger mon chapeau. Moi je pensais vraiment que il y aurait un problème paillette dans le vestiaire cette saison.
Après il y a eu des matchs sur lesquels on aurait pu s'attendre à le voir où il y a pas eu trop de turnover. Il aime pas trop le turnover.
Mais moi je pense que Tudor aurait pu l'utiliser un tout petit peu plus. Hein,
À chaque fois qu'il l'a utilisé, même lui il le reconnaît, il a pas été.
Bien sûr, il a pas été bon. T'es évidemment pas là pour faire des cadeaux. Les résultats plaisent pour lui, mais effectivement je suis sur la même ligne. Moi je pense que si ça peut bien se terminer avec Payet, après de là, je sais pas, lui trouver une place dans l'organigramme. De toute façon c'est quoi, c'est soit t'es au recrutement, soit t'es entraîneur des attaquants, scout, voilà,
ça passe de jeunes, de choses. Je vous recommencer pour mettre le pied à l'étrier.
Je vois pas Payet faire scout juste après sa carrière, après une carrière de aussi longue. Sincèrement j'ai du mal quand même à le voir.
Pourquoi? C'est quoi? Toi, tu penses qu'il va avoir besoin d'une période de respiration, c'est ça?
Et puis ces mecs-là, ils ont un standing, ils ont un mode de vie.
Ils sont aussi.
Scout, c'est du travail. C'est pas anodin.
Scout, c'était pas le bon.
Oui,
le
enfin
bon
oui, voilà, oui, je sais pas.
Mais
c'est
pour ça que je posais.
Ambassadeur, ça veut tout et rien dire.
C'est pour ça que je posais la
question. Fictif, quoi.
C'est pour ça que je posais la question à Jonathan, parce que moi déjà j'ai du mal à me faire un avis sur la question, sur l'avis tranché de Jonathan, parce que je trouve que c'est un cas très complexe par rapport à ce que représente Dimitri Payet sur les dernières années à l'Olympique de Marseille, par rapport à son salaire, par rapport aussi à son aura dans le groupe et autour du club, et le voir une deuxième saison sur un banc comme l'Olympique de Marseille, je sais pas si
comment il le vivra, tu veux dire?
Non, je pense qu'il de toute façon il vit déjà cette situation, mais une de plus.
Bah oui, c'est ça.
Voilà, la lassitude, même pour lui, de retourner au boulot entre guillemets tous les. Je veux bien qu'il soit passionné, mais retourner à l'entraînement en sachant que le train est aujourd'hui avance sans lui et que cette équipe-là est meilleure même des fois sans lui. Ça aussi c'est quelque chose qui.
Tu peux enlever le des fois et dire majoritairement.
Voilà majoritairement. Donc Dimitri Payet, même s'il a mis son ego de côté sur une saison, est-ce que peut-être de son côté il se dira pas moi les gars moi j'arrête à la fin de saison.
Il faut prendre en considération dans l'équation. Pourquoi il est revenu à Marseille déjà.
Juste pour terminer.
Pourquoi il est revenu à Marseille?
Oui, pour sa femme.
Voilà.
Oui, mais juste pour terminer là-dessus, c'est que je pense que si l'Olympique de Marseille avait gagné une Coupe de France, je pense que Dimitri Payet aurait arrêté cette saison. Je pense qu'il aurait, sur cette image-là. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas véritablement d'avis sur comment ça va se terminer, comment doit se comporter le club, comment doit se comporter Dimitri Payet. Il y en a qui te diront, il peut pas annuler, en tout cas. Enlever cette année de contrat parce que ça reste de l'argent, mais en même temps voilà, franchement
les infos c'est qu'il veut honorer son contrat jusqu'au bout.
Oui,
mais moi là, je
mais dans l'anonymat complet comme ça là,
j'ajoute deux choses. La première c'est que
vas-y, après on accueille Pablo.
Quand on regarde, tu sais, toutes les petites vidéos que le club fait sur la vie du groupe, sur les inside, il est quand même hyper important. Ça reste un des capitaines du vestiaire.
D'accord,
il a un impact hyper positif sur les autres, même quand il joue pas. Je trouve que moi je suis pas surpris qu'il accepte cette situation, je pense qu'il a beaucoup gagné en maturité, mais il est vraiment exemplaire. Et la deuxième des choses sur Payet, permettez-moi toujours de penser, d'avoir le petit espoir, que sur la dizaine de matchs qui restent, avec la blessure d'Unai, avec Under qui a alterné le chaud et le froid, avec la situation de Guendouzi, permettez-moi d'espérer qu'on est encore.
Ouais, allez, mais là le train, il est.
Peut-être Walid, je vais pas être trop exigeant, mais deux, trois petits coups de baguette magique. Ouais, tu vois, admettons, même s'il fait des bouts de match, et s'il y a un match, je sais pas moi, à la 38e journée, où il faut absolument gagner pour garder la seconde place face à Monaco ou à Lens, et qui rentre et qui met un coup franc, moi je crois encore
que c'est évidemment ça. On parle de Dimitri Payet, qui te fasse gagner un match
Pablo derrière.
Sur la fin de saison complètement. Mais là, on parle aussi pour l'an prochain. Parce que les petits coups de baguette pour le salaire qu'il prend à l'année, ça fait cher la boulangerie.
Héros nous avait vendu l'idée qu'il avait baissé son salaire, alors que simplement son salaire a été lissé. A été lissé sur plusieurs années. D'où la prolongation de contrat. Mais...
Alors on accueille Pablo, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pablo.
Salut tout le monde. Salut Joe.
Rolando Magic.
Rolando Magic, ça me dérange.
Et alors Pablo, il a aussi un avis très tranché sur la question.
Ouais, moi c'est bien une des premières fois où je vais pas être d'accord avec Joe. Ah, parce que
tu vois
moi,
comme quoi c'est on peut mûrir dans la vie aussi.
On va un mec qui est tout le temps d'accord avec Joe.
Ouais,
sinon,
on est très souvent d'accord sur l'OM en tous les cas. Après sur le football en général, on peut avoir des divergences, mais sur la manière dont on voit notre club, on est assez d'accord.
Je suis d'accord avec la diète de Joe. Souvent, on est unanime là-dessus.
Vas-y Pablo sur Payet alors.
Alors et sur Payet en fait, moi je pense que il a justement mûri cette année, vous l'avez dit, il a grandi dans sa réflexion et justement je pense que sa réflexion devrait l'amener à se dire je crois que ça y est, je suis au bout et que je devrais arrêter. Il y a un poste qui l'attend au sein du club et moi je pense que c'est pas scout ou c'est pas avec les jeunes qu'il devrait être, c'est sur le banc, dans le staff de Tudor, à être une espèce de capitaine, une espèce de lien entre le staff, l'entraîneur et les joueurs, parce que comme l'a dit Joe, c'est quand même un mec qui a un impact super positif sur l'équipe quand il joue pas. Et en fait, ce serait bête de se priver de ça avec un salaire quand même qui serait beaucoup, 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 enfin très inférieur à ce qu'il a maintenant. Et en fait, il aurait toujours cette aura auprès des joueurs parce que c'est Payet, que sur les années qu'il a passées à l'OM, ben, il a régalé, il a eu des moments moins bien, mais il y a eu beaucoup de moments où il a fait rêver quand même beaucoup de monde. Et je pense qu'en fait, ce serait bête de se priver de ça, sauf que ben, le conserver en tant que joueur, je trouve c'est aberrant d'avoir un mec qui a 300 000 par mois, mais qui va pas jouer un match de l'année parce qu'il a 36 ans et que, il est juste là pour faire de la figuration.
C'est ça aussi.
Donc, je pense, en fait, que son rôle devrait être une espèce de lien entre le banc et entre le staff et les joueurs au sein de l'équipe pro. Et juste qu'il devrait se retirer,
Et Pablo, en fait, on est d'accord.
Ouais, mais
je t'explique. Max, sur ta fiche, il m'a marqué, on s'en cague de Payet. Voilà, c'est ce que tu lui aurais dit.
Après, en soi, après, on s'en cague de Payet, parce que c'est.
Ah, ça s'est tranché, ça, quand même.
Ah, bah là, tu vois, moi, j'étais déjà dans le.
Non, mais Pablo.
Vas-y, développe, alors.
Parce que pour moi, c'est pas avec Payet à ce niveau-là qu'on va step up l'année prochaine. Maintenant, Payet, faut tourner la page, en fait. C'est ça. Quand t'es dans une logique de progression chaque année, là. Je crois que ça fait au moins 15 ans qu'on n'a pas fini deux fois d'affilée sur le podium. À chaque fois qu'on a fait une saison, on a fini podium. Derrière, on s'est chié dessus. On est allé en Coupe d'Europe. On a fait de la merde. Il y a eu une crise. Il a fallu changer d'entraîneur. À chaque fois, ça a été ça. C'est sur les 8 dernières années, là, ça a été ça.
On fait pas 3 podiums d'affilée. La dernière fois, c'était en Guéret des deux Deschamps, là.
Ouais, c'était Guéret Deschamps. On fait second.
Albert Raymond, sinon?
Albert
Raymond s'est coupé. Et du coup, en fait, quand tu veux step up, que tu veux te rapprocher plus ou moins du PSG, être de plus en plus présent sur les podiums, progresser en Coupe d'Europe, ben, tu progresses.
Mais Pablo, moi ce que je te disais, c'était que le sens de mon analyse, c'était de dire que Marseille devait respecter son engagement vis-à-vis de Payet. Je te le redis, c'est simplement pour le signal envoyé ces derniers temps. Longoria a eu une gestion qui était un petit peu brutale avec certains joueurs. Je te le redis avec Bakambu et Bemba Dieng. Et je pense que si Longoria, Marseille coupe le contrat de Payet, ça sera pas un bon signe.
Après, est-ce que ouais, ils peuvent pas serrer la main les deux à la fin de la saison en disant
ça serait l'idéal. Évidemment,
mon copain, merci. Voilà.
Ça serait l'idéal.
Ouais, Joe,
on fait une fête,
après,
on fait quelque chose.
Un repas, Payet sera content.
Joe, Payet, c'est pas Bemba Dieng et c'est pas Bakambu à l'OM.
Ah, merci quand même.
On espère.
C'est pas les mêmes statuts. Bakambu et Bemba Dieng, c'est des mecs, on savait que c'était un mec, ça allait pas être Drogba, le gars. Et Bakambu, pareil. C'est pas des mecs qui allaient marquer l'histoire de l'OM comme ont pu marquer d'autres joueurs. Payet, il est rentré, je crois, en 2017. Donc, t'imagines, ça fait 6 ans qu'il est revenu. Alors, il a connu des très hauts, comme l'année 2018, quand on fait finale de Ligue Europa, il est très bon. Après, il est moins bon la dernière année Garcia. Il revient bien avec Villas-Boas. En fait, ça a toujours été une espèce de haut-bas, là, une espèce de grand 8 avec Payet. Un coup, il est bon, un coup, il est moins bon. Donc, on ne sait jamais vraiment sur quel pied.
C'est en 2011 qu'il arrive, c'est ça, les gars?
Il arrive en 2013, Payet. Il arrive en 2013. Ouais, il débarque de Lille. Et en fait, déjà en 2013, il met 2 ans à éclater. Parce qu'il est.
Attends, 2009-2010, c'est l'arrivée du titre. 2012-2011, c'est l'arrivée de Gignac.
Tira sur Wikipédia. Ok, on fait comme ça. Merci Pablo d'avoir été avec nous.
Salut Pablo.
À bientôt, tu reviens quand tu veux, Pablo. Ciao, Pablo. Dans un instant, quelques petites infos également autour de l'Olympique de Marseille. Et puis je vous rappelle, 21h30, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, qui cartonne, qui affrontera Marseille d'ailleurs vendredi en l'ouverture de la prochaine journée de Ligue 1, sera notre invité dans Génération After. Avec Simon Dutin, Jonathan Macardy et Walid Acharchour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Jonathan Macardy, Walid Acharchour, avec Simon Dutin également. On est en direct sur la chaîne Twitch. On est également sur TikTok ce soir, sachez-le. Ensemble jusqu'à minuit. Quelques petites infos, ouais, je vous rappelle que dans 10 minutes hein, à peu près, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, sera notre invité dans Génération After. Des petites infos autour de l'OM qui va affronter Montpellier justement. Ce sera vendredi et ce sera vif sur RMC. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais l'OM et Bielsa auraient trouvé un accord de résiliation à l'amiable. La Provence qui annonce que l'entraîneur argentin qui avait quitté Marseille, vous vous souvenez, hein, ça a été divorce difficile en août 2015, et le club aurait trouvé un terrain d'entente, hein, enfin. Oui. Ça traîne hein, cette histoire quand même. Hein. Oui, toi qui aimes bien Bielsa.
Ouais, ça traînait, mais apparemment les échos qui sont ressortis des discussions, c'était que Bielsa avait été impressionné par la qualité intellectuelle et de Pablo Longoria. Donc voilà, c'est la petite anecdote
marrante
du truc. Ouais. Bon, pas bah, écoute.
Et, info qui nous vient d'Italie. Selon Tuttosport, la Juve songe à Igor Tudor pour remplacer Allegri la saison prochaine au poste d'entraîneur. Alors c'est loin d'être fait. Hein. C'est expliqué par le quotidien italien. La Juve ne souhaite pas virer Allegri parce qu'ils disposent notamment d'un gros salaire à Turin et sont plutôt contents de ce qu'il fait dans le contexte très difficile. Vous savez que la Juve a été pénalisée de 15 points au classement. Et les dirigeants donc s'opposent cependant pas à un départ si jamais Allegri venait être débauché par un autre club. Et Tudor serait le favori pour remplacer Allegri en cas de départ.
Voilà. Mais moi, c'est pour ça que dans le débat, je voulais le dire, mais c'est quelque chose à prendre dans l'équation sur le débat Payet. Est-ce qu'on est sûr que Tudor sera sur le banc de l'OM la saison prochaine? On sait pas, peut-être qu'il y aura du changement, peut-être un autre entraîneur qui aura besoin d'un numéro 10. Et puis je serais pas étonné si il y avait une sorte de chassé-croisé Paris-Marseille-Turin entre Tudor et Allegri.
Oh, c'est après.
C'est-à-dire, attends, je l'ai pas là.
T'as dit que la condition
Allegri
c'était
à Paris, quoi,
c'était
Tudor
que c'était
à
qu'Allegri
Turin,
soit
tu verras Allegri à Paris.
Débauché.
Et Galtier à Marseille du coup?
Non, Galtier à Marseille c'est terminé, ça n'arrivera plus et tant mieux.
C'est là on va la garder.
Et tant mieux.
Ah, c'est là on la garde.
Mais
je pense que Galtier n'ira pas à Marseille.
Mais j'espère pas. Maintenant, après ce qu'il a fait, j'en crevais d'envie auparavant. Je rêvais de le voir sur le banc de l'OM et gagner des titres avec l'OM. Maintenant, c'est terminé. Je sais même plus comment il s'appelle. Je le vois dans la rue, je le reconnais même plus.
Christophe Galtier.
C'est comme l'autre là qui est parti à Birmingham. Là, je sais plus comment il s'appelle.
Bouba Camara. Respect Bouba Camara.
Non, je sais pas qui c'est. Moi.
Ah d'accord, ok.
Tiens, vous en pensez quoi là, de cette possibilité Tudor à la Juve? Non, mais cela dit, la question soulevée par Jonathan, elle est pertinente. Il peut partir hein, Tudor à la fin de la saison, débauché par la Juve ou par un autre club hein, d'ailleurs. Hein. Simon, t'as l'air dubitatif par rapport à ça, toi.
Jonathan vient de nous vanter l'intelligence de Pablo Longoria que je ne remets absolument pas en cause. Je partage son avis. Va falloir être plus qu'intelligent, va falloir être ingénieux, un créatif pour aller vendre aux supporters marseillais que tu dors.
Mais s'il se fait débaucher par
tout est démerdé pour
t'as, après, t'as, il a un contrat.
T'as fait comme tu. Bah attends, ouais, il y a un contrat. Messieurs dames, tu dors, il va arriver.
Marseille, Simon.
Et alors, et à la Juve, Tudor qui a l'air d'être un mec de principe avec plus qu'une grande gueule, un gros caractère et tout, il va aller voir la Juve, il va aller leur dire mais les mecs, moi j'étais en Italie là, pourquoi vous intéressez pas.
Le problème c'est le passif.
Ça va, la Juve. C'est invendable aux supporters marseillais, donc je pense que Longoria fera pas cette. Oui, non mais je dis.
Tu sais, vraiment, hein, tout est à vendre à Marseille.
Franchement, personne n'imaginait Tudor, à part peut-être toi, le geek qui regarde Hélas Vérone, Salernitana.
Et encore, c'est
quand
plus un mytho qu'un geek. Libre. Donc...
Et encore, voilà, on n'est pas sûr.
Non, pour la Serie A, je regarde.
Personne s'imaginait Tudor, en plus, qui n'a pas si bien démarré que ça à Marseille. Maintenant, tu vas aller expliquer aux supporters marseillais que le mec qui a battu le record de points sur une saison à Marseille pour sa première saison, qui a réussi, encore une fois, sans paillettes, sans le talisman, machin, de ces 10 dernières années, tu vas leur dire qu'il part à la Juve. Non, mais.
Walid, tu crois, toi, ou pas?
Tout est possible. Déjà, la première bien des sûr. Choses, c'est qu'on ne sait pas comment va se terminer la saison de l'Olympique de Marseille. La deuxième des choses, c'est que,
c'est que
Igor Tudor fait souvent une saison dans un club, bon, pas pour les bonnes raisons d'habitude, mais là, ça peut être le cas dans une bonne raison. C'est-à-dire rappelez-vous de Conte Sessao à Nantes, il fait une très bonne saison à Nantes.
Il fait 6 mois.
Il fait 6 mois. Tout le monde se dit qu'il va s'installer dans la durée. Porto arrive, merci au revoir. Les coachs aussi, ils peuvent être aussi cynique que les clubs. Hein. Igor Tudor a une histoire avec la Juventus. Si véritablement la Juventus est intéressée par Tudor, bah je serais pas aussi sûr que Simon sur le fait qu'il décline l'invitation.
Hein. Je te dis pas que lui décline.
Juventus.
Je te dis que t'es Longoria. Tu dis tous les joueurs sont avant. Et l'entraîneur, Sampaoli, tu touches pas, il bouge pas.
Revient en mars de l'année dernière, on te dit Sampaoli sera plus au OM l'année prochaine.
Non, ouais, Sampaoli.
Mais Simon, tu peux pas le contraindre de rester. Si lui demain la Juve avec toute l'histoire qu'il connaît vient le voir.
Il a commencé à dire pareil. C'est des mecs qui te vendent un peu leur philosophie sur la parole donnée, sur je te regarde dans les yeux, tu vois, je t'ai pris entre quatre yeux, je t'explique ça dans le vestiaire. J'ai été clair avec un tel. J'ai été honnête avec un tel. Écoutez, c'est pas l'image
du Kinder Pingui, ça.
C'est pas l'image que, les Kinder Pingui, c'est pas les meilleurs, les Kinder Pingui.
Mais là-dessus, il a raison.
Écoutez, c'est pas.
Non, non, c'est encore plus dégueulasse.
C'est pas l'image du bonhomme que j'ai. J'ai tendance à, j'ai envie de croire peut-être que je suis un bisounours. J'ai tendance à croire que le mec, après ce qu'il a commencé à construire à Marseille, il dira à la Juve, mollo, les gars, vous me laissez faire un ou deux ans et puis on discute derrière. Mais peut-être que je me trompe.
Walid soulève un débat qui est
mollo sur le marché. Hein.
Non, mais qui soulève un débat qui est important. Mais c'est quoi le meilleur Kinder du coup?
Pour moi, c'est le
Non, mais arrête, toi, avec ta bonne bouffe, là. Un peu de caca dans le cerveau.
Pour moi, les Kinder, c'est tout dépend de l'ambiance. C'est-à-dire que le matin, ça peut être un country.
Country, c'est hard, quand même. Très
sous-estimé, le Kinder Country.
Moi, je trouve ça vraiment
pas un indice glycémique dès le matin qui est dégueulasse. Bravo.
Après un match de foot, par exemple, c'est le Bueno.
Ah, Bueno, c'est un. Pour moi, t'es Bueno, c'est Ligue des Champions du Kinder.
Voilà, Kinder Bueno. Celui où on trempe le lait, là. C'est le
Kinder. Le Kinder, le classique. Kinder, là. Voilà. Le mode Dodan. Voilà. J'en ai mangé avant de venir.
Celui-là, c'est 16h. Voilà, et puis après,
avec un petit bout de pain.
Et Kinder Pingui, c'est frais.
Kinder Chocolat, imbattable. Ce n'est pas la pub, mais enfin, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison.
Oh, le jingle à la finale, vous me désolez.
Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison.
Ceux qui écoutent à la radio, vous avez pas la tête de Jonathan McCarthy qui est en plein show là. Comme s'il mangeait aucune, mais vraiment, vraiment aucune.
Mange des graines. Allez, on y va. Michel Derzakarian sera notre invité dans une poignée de minutes dans Génération After, l'entraîneur de Montpellier qui va affronter l'OM. Tiens, ouais. On lui demandera aussi. Tiens, tu lui demanderas, Jonathan, quel est son Kinder préféré à Michel Derzakarian?
Non, ça ira, merci.
Allez, à tout de suite dans Génération After avec Simon Dutin, Jonathan McCarthy et Walid Acharchour.
RMC. 20h-22h, Génération After,
Nicolas Villas.
En compagnie de Walid Acharchour, avec Jonathan McCarthy, avec Simon Dutin. On est toujours en direct également sur la chaîne Twitch RMC Sport et sur TikTok. Alors le débat Kinder fait un carton sur la chaîne Twitch RMC Sport.
On a oublié de parler de celui qui a une grosse hype en ce moment dans tous les supermarchés, c'est le Maxi King.
Que je n'ai pas testé.
Ouais, qui se vend par 3. Pour les connaisseurs. Non mais vraiment pour les connaisseurs, pour les fins gourmets.
Mais du coup avec la pub qu'on vient de faire à Ferrero, s'ils peuvent nous envoyer quelques
cartons. J'espère pour vous que ce ne sera pas ceux avec les microbes dedans là.
Depuis qu'il a repris en main Montpellier, il est injouable. 5 victoires, 1 nul. Il va affronter l'OM pour la reprise de la Ligue 1 ce week-end. Il a célébré il y a peu ses 60 ans, mais il est frais comme jamais. Michel Derzakarian est avec nous dans Génération After. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Michel.
Bon déjà, comment ça va Michel?
Bonsoir Michel.
Très bien.
Ça se passe bien là?
Ouais. Il fait beau et on a du soleil, c'est agréable.
Alors depuis votre retour à la Mosson, je l'ai dit, Montpellier c'est 5 victoires et 1 nul. Personne ne fait mieux sur cette période. C'est quoi le secret, Michel, là, de Montpellier là, depuis votre retour?
J'espère que ça va durer surtout, qu'on va continuer à montrer le visage que l'équipe montre sur le terrain.
Michel, bonsoir et déjà merci d'être avec nous dans Génération After. Mais il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que vous êtes sur les 6 dernières journées, vous êtes la deuxième attaque et la meilleure défense. Vous avez réussi à remettre de l'ordre et à rééquilibrer cette équipe. Comment vous avez retrouvé ce groupe-là et dans quel état il était psychologiquement, techniquement?
Non, je pense que c'est un groupe où il y a des joueurs de qualité. La moitié des joueurs, je connaissais. Dans l'équipe que j'avais côtoyé déjà il y a un an et demi. Voilà, je pensais que ça allait pas être facile non plus. Hein. Il n'y a rien de facile dans le football. Hein. Même si on a joué des concurrents directs, ces matchs-là, il faut les gagner. Mais l'implication des joueurs a fait que ce qu'on a mis en place avec mon staff. Ils ont adhéré au travail, ils ont bien bossé, et puis ça s'est répercuté sur le terrain.
Vous savez que c'est le meilleur début d'un coach au MHSC de l'histoire du club, ce que vous êtes en train de faire?
Oui, on me l'a rapporté, mais bon, ça c'est... Déjà les années précédentes que j'ai passé à Montpellier, on avait fait sauter pas mal de
exactement
de résultats qui contre des grosses équipes.
Michel Derzakarian avec nous en direct dans Génération After. Simon, t'as une question pour Michel.
Oui, Michel, bonsoir. Ben, vous l'avez souligné vous-même, vous connaissiez une partie de l'effectif. Vous arrivez là en cours de saison. Ces joueurs, ils vous connaissent, ils vous connaissaient. En quoi le discours de l'entraîneur, qui arrive en cours de saison pour rétablir une situation, il diffère de celui que ces joueurs ont connu à l'époque où vous étiez l'entraîneur titulaire?
Ah, je pense qu'ils avaient conscience aussi qu'ils avaient pas été bons sur le terrain aussi, parce qu'ils ont été inconstants aussi.
C'est ça que vous leur dites lorsque vous arrivez, vous avez pas été bon, vous pouvez faire mieux.
Pardon.
C'est ça, en gros, le message, c'est messieurs, les confronter à la réalité, leur dire pour l'instant vous n'êtes pas bon, quoi.
Non, ce que j'aurais dit, c'est que il faut mettre les services de leur qualité au service de l'équipe. C'est la première des choses, c'était ça. Et puis quand on est à deux points du premier relégable, voilà, il faut mettre le bleu de chauffe et être au combat déjà dans le premier temps. Et on a répondu présent dans ce domaine-là. Et je sais que si tout le monde travaille bien collectivement pour bien récupérer les ballons, on a quand même du potentiel dans l'équipe, des joueurs qui sont capables de donner des bons ballons, et on a des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Je savais qu'on aurait pu inverser les choses à travers le collectif.
Est-ce que vous avez hésité, Michel, avant de revenir à Montpellier? Parce que vous connaissiez finalement déjà ça. Est-ce que, je sais pas, vous l'avez vécu comme finalement, je vais pas dire un retour en arrière, mais un peu quand même, vous connaissiez déjà ça. Je me souviens, vous étiez avec nous quand vous aviez signé à Brest à l'époque. Vous étiez avec nous sur RMC, vous aviez dit, pour être honnête, je suis allé à Brest parce que j'ai reçu que ça comme proposition. Vous sortiez de 4 belles années à Montpellier. Comment vous vivez ce retour à la paillade?
Non, c'est la vérité. Le club avait envie d'échanger aussi à l'époque, et moi j'avais envie aussi de voir autre chose. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu d'offre que Brest, et comme j'avais envie de travailler, bien je suis parti à Brest. Mais, je suis pas parti à contre-cœur, hein. On a fait une première saison, on avait fait pareil, une série de 6 victoires d'affilée, d'être propulsé en dehors des 4 dernières places. Et aujourd'hui, j'ai réussi à nouveau mon retour à Montpellier, même si je ne m'attendais pas du tout à ce que Montpellier me rappelle.
Ouais. Michel, est-ce que vous diriez que l'arrivée de Kouyaté a quand même changé beaucoup, beaucoup de choses pour le MHSC?
Pas que Kouyaté, je pense que Kouyaté, Silla à gauche au niveau de la défense, Benjamin Lecomte, et qui est arrivé aussi avant que je revienne. Voilà, c'est des joueurs qui ont amené de la stabilité aussi derrière, et qui ont donné de la confiance aux joueurs qui étaient acte 2.
Alors, l'un des joueurs qui cartonne à Montpellier cette saison, Michel Derzakarian, c'est Eli Wahi, 20 ans seulement, 12 buts cette saison, il en avait claqué 10 la saison dernière. Vous avez fait un entretien récemment à France Bleu Héros, dans lequel vous avez déclaré, Wahi, c'est minimum 25-30 millions d'euros. Jusqu'où il peut aller finalement, Wahi? C'est encore un jeune joueur, mais est-ce que vous lui donnez même des conseils? Il y a certains jeunes parfois qui se brûlent un peu les ailes, qui font pas les bons choix de carrière.
Il a démarré avec moi il y a deux ans et demi déjà. C'est son premier match, il était rentré, il avait marqué à Lyon. C'est un garçon qui est pétri de talent, qui a tout ce qu'il faut pour aller au haut niveau. Après, à lui de continuer à travailler très très fort surtout. C'est ce que je répète tout le temps. Voilà, on a beau avoir du talent, si on bosse pas fort, faut pas répéter les sprints, et faut voir du coffre. Il faut qu'il améliore son coffre.
Quand vous parlez du Kawhi, j'ai l'impression, j'ai suivi avec attention vos déclarations sur le sujet. J'ai l'impression que vous êtes un peu fataliste quant au fait de le perdre en fin de saison.
Non, on sait que à court terme, il va, il, il, il va être amené à bouger. On sait qu'on ne pourra pas le garder. Mais c'est comme ça. C'est beaucoup de clubs aujourd'hui fonctionnent comme ça. On a des très bons joueurs. Ils s'en vont souvent. C'est pour ça que notre championnat il est très très bon. Et il est dénigré par beaucoup de monde. Mais je pense qu'on a un championnat qui est bon. Et on a des bons joueurs qui sont demandés dans les meilleurs.
Et Michel, j'ai l'impression aussi que vous avez une relation quand même particulière avec TJ Savanier. J'ai l'impression qu'il a encore plus retrouvé des couleurs depuis que vous êtes arrivé. Parlez-nous un peu de votre relation avec TJ.
TJ, c'est un garçon charmant qui est pétri de qualité. Voilà, il pue le football et voilà. Quand tu coaches, t'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Il le fait très très bien.
Vous savez, Michel, que Jonathan.
Content de l'avoir avec soi. Ouais.
Jonathan, lui, milite pour qu'il aille en équipe de France.
Ouais, mais en équipe de France, il y a. C'est dommage qu'il ait pas 5 ans, 6 ans de moins. Voilà.
Alors, juste également un mot sur Wahbi Khazri aussi, parce que j'ai vu que dans France Bleu Héros, dans cette fameuse interview, vous avez déclaré s'il avait 3-4 kilos en moins, il serait meilleur. C'est un gentil garçon, un très bon joueur. Il a une bonne technique, une bonne vision de jeu. Dans le jeu combiné, il est très très bon. Mais je pense qu'il pourrait être meilleur s'il faisait ces efforts-là. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec lui? Et qu'est-ce qu'il vous répond à ça, justement?
Bien sûr que j'en ai parlé, oui, bien sûr. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait pas que lui, il y avait d'autres joueurs aussi qui avaient du poids en trop. Et voilà. Je pense que quand tu veux jouer au haut niveau et rester, en plus quand tu dépasses 30 ans, il faut rester bien affûté pour être bon sur le terrain. Et pour déjà pas se blesser, parce que quand tu as des fois 3 kilos, 4 kilos en trop, parce que les joueurs ils pensent toujours qu'ils sont un bon poids.
Bien sûr. Wahbi, il a des problèmes.
Après, c'est comme je t'ai dit, comme tu l'as bien dit, c'est un joueur de grande qualité. Il a, dans tous les clubs où il est passé, il a été très très bon. Il est capable de marquer des buts, il est capable de donner des bons ballons. Il est comme TJ, il sent bien le football. C'est un très bon joueur.
Tiens, on accueille Yannick Michel, qui a une question pour l'entraîneur de Montpellier. Salut Yannick.
Bonsoir messieurs.
Salut Yannick. Alors vas-y Yannick, c'est ton moment. Michel Darzacarian, ton entraîneur, bonsoir, est face Michel. À toi.
Déjà, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait ces dernières journées, parce que, mine de rien, on était quand même vraiment pas bien. Je voyais pas trop.
À deux points de la zone rouge, ouais, quand il arrive.
Ouais, et puis je voyais pas d'issue, tout simplement. Je voyais pas quel ressort allait pouvoir nous sortir de là. Bah, il faut savoir, je pense que Michel, il est arrivé et il a trouvé les ressources pour ça. Et du coup, on le remercie parce qu'on était mal barré. Et moi, j'avais une petite question, ce qui a été un peu abordé tout à l'heure par rapport à quand Nico, toi, tu lui as demandé si quelque part, et il n'avait pas l'impression que c'était un retour en arrière de revenir à Montpellier. Quand il est parti, c'est vrai que ça venait, j'ai l'impression, un peu plus du président qui voulait démarrer un nouveau cycle. Je crois que, d'après ce que j'ai bien compris, Michel il aurait bien aimé peut-être rester... Enfin, lui, il se serait bien vu pour rester au club. Et du coup, alors même si c'était légitime de peut-être vouloir démarrer un autre cycle, et que quelque part, avec ce retour, il n'y a pas ce sentiment, pas forcément de revanche, mais de se dire un peu, on a peut-être tous un peu perdu notre temps, et si j'étais resté, peut-être que du coup, ça aurait été dans la continuité de tout ce que j'avais fait, de tout ce qui avait été fait avant, en fait. En fait, c'est un peu ça qui fait que maintenant, quand il revient, on se dit, moi, j'avoue que quand il est parti, je me suis dit que c'était la fin d'un cycle, voilà, et qu'il fallait quelque chose de nouveau. Et maintenant, j'ai un peu un plaisir coupable de le voir revenir en me disant, j'ai pas été un gentil garçon.
Alors, tu sais quoi, Yannick, je vais même prolonger ta question à Michel Darzacarian. Est-ce que, à 60 ans, quand vous regardez votre parcours, vous avez des regrets? Est-ce que vous vous dites pas que vous auriez pu taper plus haut à un moment?
Non, des regrets. Je n'ai pas de regrets. On a la carrière qu'on mérite. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est le football. Hein. C'est le destin. Et moi, je suis content de la carrière que j'ai eu en tant que joueur et en tant que j'en aurais rêvé et je l'ai réalisé.
Mais qu'est-ce qui bonsoir Michel, mais qu'est-ce qui vous...
Ah, tu t'es réveillé toi?
Oui, j'écoute, j'observe et quand j'ai quelque chose à dire, j'essaie de poser la question à Michel. Qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir une équipe entre guillemets du top 5 en Ligue 1, pour avoir un peu plus d'ambition. Est-ce que vous avez?
Il manque il faut que des directions aient envie de travailler avec toi, tout simplement. Moi on m'a beaucoup dénigré, hein, parce que on me disait que j'étais un entraîneur défensif, moi.
Ça vous énerve, hein, Michel.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que j'ai pas ce discours-là avec mes joueurs. Moi, j'ai envie de marquer. Que mes équipes marquent des buts. Après, tout dépend de la qualité d'effectif que tu as et des joueurs, la qualité des joueurs que tu as. Parce que quand tu veux jouer haut, presser haut, il te faut des joueurs qui vont vite derrière, qui aussi, sinon tu vas au suicide aussi. Faites une capacité d'avoir des joueurs qui ont un physique énorme pour presser haut, pour garder le ballon, pour tenir le ballon haut. Il faut de la technique, il faut. Voilà, c'est. Et quand tu n'as pas le ballon, il faut défendre.
Et Michel,
moi, c'est ce qu'on m'a appris. Hein. J'ai eu Ciodo. Ciodo, c'était un super entraîneur aussi. Mais quand tu n'avais pas le ballon, il fallait défendre pour l'utiliser derrière. Hein.
Juste pour compléter, Michel, la question de Walid et Nicolas, il n'y a pas eu un côté, vous l'avez jamais senti, genre, excusez-moi de vulgariser, mais Der Zakarian, c'est un emmerdeur, quoi. Der Zakarian, je sais pas, il a un gros caractère. Il n'y a pas des présidents qui ont eu peur de ça, vous pensez?
Non, je pense pas. Moi, j'aime bien parler avec mes joueurs. J'adore mes joueurs. Et après. Après, il faut de la rigueur aussi, il faut de la discipline. Aujourd'hui, le football, c'est un jeu de position, et il faut, chacun dans son registre, il faut être performant.
Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Oui, merci beaucoup, Michel.
Merci beaucoup, Michel. On vous dit merde pour vendredi, ce match face à l'OM. Hein,
pas
du coup.
Moi.
Bah, si, ouais, si. Ben,
moi. Non, aussi. Pas moi, mais ouais, pour les matchs d'après.
Bon, c'est le bon moment de les jouer. Marseille, ils sont nuls à domicile, Michel, Marseille cette année. Ils sont nuls à domicile cette année, Marseille, Michel.
Ouais, ils sont pas nuls. Ils sont.
Michel, doucement ce week-end et vous reprenez votre marche en avant.
Michel,
la semaine d'après.
Vu la forme du moment, c'est Montpellier le favori, on est d'accord.
Écoutez, on en parlera après le match. Hein. Mais on va y aller pour bien sûr pour le gagner. On va essayer de les bousculer aussi parce qu'on va pas les regarder jouer.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec
Salut
nous.
Salut, Michel.
Ok.
Bonne soirée, à bientôt.
Bonne
merci, soirée, Michel. Et merci à Yannick, un supporter de Montpellier qui était en direct avec nous.
J'ai vu un site, tu sais, un site de supporters Montpellier, je crois que c'est les Payadins ou quelque chose comme ça, qui appelle Der Zakarian quand même le génie arménien.
Oui, c'est pas mal. Hein.
C'est bien, c'est canon comme surnom.
Ça pète.
Et le génie français,
il arrive,
génie arménien.
Hein. Dans quelques instants, pas mal d'infos du jour et quelques déclarations de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, qui a fait une interview en Espagne à El País, où il parle du rôle des mamans pendant l'épopée du Maroc à la Coupe du Monde. On va vous lire ça, on va vous traduire ça dans quelques instants avec Simon Dutin, Jonathan Macardy et Walid Acharchour. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Simon Dutin, Jonathan Macardy, Walid Acharchour, on est là jusqu'à minuit.
Hein, il y a Walid avec sa bedaine qui rentre en boitant avec sa béquille dans le studio. Tout feu, tout flamme, le ventre en avant, c'est son tueur, j'aurais dû le filmer.
Mais je ne vois pas ce que t'as contre les ventres.
Mais j'ai rien, tu sais
non,
quoi.
Un élan avec ceux qui aiment la nourriture.
C'est sympathie, t'es rentré, c'est un bon vivant, t'avais l'image du bon vivant.
Gros corps malade. Gros corps malade.
Non,
quelques infos du jour avant l'after 22h. Interview de Walid Regragui au quotidien El País.
Incroyable interview.
Ouais, il est toujours fort de manière.
Ah, sincèrement. Ouais.
Et d'ailleurs, il a fait une conf de presse incroyable.
Le racisme là.
Non, mais globalement, il a parlé un peu de tout.
Mais ce mec, il est au top.
Moi, j'aime bien, ouais. Le sélectionneur du Maroc, qui vient de battre d'ailleurs le Brésil en amical, s'est exprimé dans la presse espagnole. Il est revenu sur le parcours du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et il a relevé le rôle des mères des joueurs. Je cite Walid Regragui, hein. Normalement, les joueurs passent beaucoup de temps à être distraits par les filles, les réseaux sociaux, les bijoux, les photos, Rolex, Louis Vuitton, les lunettes. Au Mondial 2018, il y a eu beaucoup de problèmes parce que les joueurs ont amené leurs agents, leurs petites amies et leurs amis au camp d'entraînement. J'ai changé les règles. Seuls les épouses et les enfants ou la famille proche, frères, sœurs, pères et mères, étaient autorisés à y séjourner. Si je leur avais laissé le choix, les mères n'auraient pas été là. Et il poursuit
en concernant les mamans. Elles font régner l'ordre. Pour moi, elles étaient très importantes car le cercle familial tourne autour d'elles. Pour les musulmans, le rassemblement des familles le vendredi autour du couscous de la mère est quelque chose de très important. Seules les mères sont capables de réunir leurs enfants de cette manière. C'est incroyable quand même.
C'est dingue parce que surtout avec l'anecdote en 2018 où il disait que voilà, c'était un peu le Club Med dans les entrées et dans les sorties et que les joueurs étaient déconcentrés par rapport à ça et que il explique aussi dans l'interview que il vérifiait aussi avec les cartes d'identité pour voir s'il y avait un lien familial avec avec les joueurs. Ah non mais qu'il y avait vraiment
il était en mode ambassade.
Ah non mais c'était très très strict et c'est ce qui a permis aussi à ces joueurs-là d'être concentrés pendant toute la rencontre pendant toute la compétition pardon.
La moralité de l'histoire c'est qu'Achraf Hakimi devrait rester avec sa maman du coup hein. Devrait emménager, rabattre à la maman et puis habiter avec.
Ce qui est fabuleux c'est qu'il dit si je leur avais laissé le choix, elles auraient pas été là.
Ouais.
Et moi j'ai pas joué au foot longtemps mais en débutant en poussin, tu sais, c'est un peu système D après les entraînements, après les tournois. Ouais. Quand tu vois le rôle qu'ont les mamans dans le foot qui est pas encore tout à fait encadré avec au milieu des bénévoles, des mamans qui donnent de leur temps, qui viennent pour le goûter, qui viennent pour ramener les copains de leurs enfants, je trouve que c'est formidable. Et de toute façon, Redraghi, c'est rare que je sois contre ses déclarations, je trouve que c'est vraiment un mec. Non mais
et surtout
formidable.
En plus avec la bienveillance que les mamans peuvent apporter aujourd'hui dans le monde du foot, on a vu les scènes après le 8e de finale contre l'Espagne avec la maman de Boufal et Boufal qui dansent au milieu du terrain.
Magnifique.
Déjà à l'époque, l'image était magnifique, mais avec le discours de Redraghi, ça rajoute encore plus à ce côté symbolique où les mamans avaient une vraie importance dans l'équilibre entre guillemets mental au jour le jour des Marocains.
D'ailleurs, il y a une autre thématique qui soulève dans cette interview, c'est celle de la binationalité, puisque toujours quand il parle du rôle des parents et des mamans, après tout, pourquoi ces hommes ont-ils décidé de jouer pour le Maroc à cause de leurs parents, dit-il, pour leurs grands-parents. Parce qu'à la maison, ils ont acquis un sentiment d'appartenance à un pays qu'ils n'auraient pas connu autrement. C'est vrai que souvent, on a tendance à oublier cet aspect-là également. Mais ils le font pour eux aussi, ce choix-là.
Bien évidemment.
Voilà.
Bien
sûr. Voilà, très belle interview. Je la recommande. D'ailleurs, c'est sur El País. Vous allez sur le site rmcsport.fr. Il y a les plus belles déclats qui ont été traduites. Hein. Ouais. Tiens, petite info transfert, petite rumeur plutôt. Selon les Evening Standard.
Ah non, pas une info, s'il te plaît.
Info, hein. Rumeur.
Rumeur. Ouais. Rumeur ou info, responsable, ouais, mais pas coupable. Christophe Galtier est dans la liste des potentiels futurs managers de Tottenham. Alors il y a plusieurs noms.
Il y a 15 noms.
Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. Donc tu crois pas un instant.
Bah j'ai du mal. Après moi je vais prendre des pincettes hein, parce que on va ressortir la vidéo dans 3 semaines. Galtier sera avec le maillot de Tottenham, mais j'ai du mal à y croire. Hein.
Ça aurait été pour moi l'étape logique après le LOSC. Ouais. Là maintenant, vous savez l'estime que j'ai pour Christophe, que j'avais pour Christophe Galtier. J'ai l'impression qu'on a quand même vu 2-3 choses. Non, mais juste en termes de cas de gestion managériale, on a vu quand même des choses un petit peu curieuses. Alors certes, c'est Paris avec tout le contexte imbuvable, invivable, immanageable, si j'ose dire, qui est le sien. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu écorné sa cote. Quand même,
entre Nagelsmann qui est sur le marché, Pochettino qui pourrait revenir à la maison.
Luis Enrique.
Sincèrement, voir Galtier à Tottenham, je serais sur les fesses.
Excusez-moi
de l'expression.
T'aimes bien Tottenham, toi, Simon.
Mais bon. Je sais pas pourquoi, moi, c'est mon club en Angleterre.
Ah ouais.
Ouais.
Ça vient d'où?
Je sais pas. Non, mais même avant. Ouais, c'est une finale de la Cup.
Ça vient de Huddleston, non?
Non, mais Waddle, qui était mon idole, avait joué. Waddle, Gascoigne, Lineker, c'est des petits noms.
Bah, Yobouni à l'époque.
Ouais.
Tu te souviens de ça ou pas?
Non.
Marc Pony, l'équipementier britannique.
Ah, j'avais pas ça.
Ah, tu l'as pas?
Non.
West Ham aussi jouait en Pony, etc. C'était pas très beau d'ailleurs ce qu'il faisait, mais. Moi je me souviens, époque Ginola, Klinsmann.
Klinsmann, fabuleux.
Fin 90?
Ouais, bon, même mi-90 même. Ouais. 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 On est vieux, nous, gros.
Ah ouais, d'accord. Ah, moi j'ai commencé le foot en 98, moi.
Ah ouais, mais non. Mais nous, non.
Ouais.
Non, on a bouffé le point noir avant. Petite info Ligue 1 également, ça sent la fin entre Lorient et Le Fay. Alors, joueur de 23 ans qui a révélé au Télégramme.
Ça sent la fin, il a quand même dit que c'était la
Attends,
fin.
Oui, mais le problème, c'est qu'il reste un an de contrat. C'est ça qui est dingue. Il annonce qu'il va quitter, enfin, qu'il a envie de quitter son club formateur à Vicky, il est sous contrat jusqu'en 2024. J'ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu'à décembre, dit-il. Elle n'est jamais venue. Maintenant, je n'attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J'espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l'argent au FC Lorient. C'est le moment de partir pour moi. A-t-il rajouté? Il met quand même la pression.
Ferry va pas louper une occasion de se faire un billet, surtout qu'il y a le risque qu'il parte gratuit.
Même s'il disait je veux pas quitter Lorient,
mais là c'est le prix, les mecs.
Voilà, moi je le vois totalement dans un club comme Lyon.
Moi j'irais pas à Lyon si je fais Enzo Le Fay.
Comme un club comme Monaco. Oui, mais moi, dans un club qui soit capable de jouer les places européennes.
Lens, moi, Lens ou Lille.
Je sais pas, ils ont tenté des Lens, c'est une super idée.
Lens ou Lille. Lens ou Lille. Le problème de Lens, c'est qu'il y a Thomasson, déjà. Pulgini. Lille dans le projet Fonseca, alors qu'ils vont perdre.
Est-ce qu'il va rester, lui?
Qui Fonseca?
Bah,
on espère, enfin, je le souhaite, moi, mais. Mais aller à Lyon, quand on voit par exemple la trajectoire d'un Romain Fèvre,
il peut en parler avec Fèvre, ouais, justement.
Ouais. Après, moi, je vous avoue que je le. Bah, si on me dit qu'il va à Marseille, je prends tout de suite. Hein. Pour moi, si on me dit ça fait des années que si on me dit il va à Marseille, je prends tout de suite.
Après, c'est pas le secteur.
Je pense qu'il a en lui de passer le. Ouais, c'est le secteur est bouché. Ouais,
le secteur.
Mais il a en lui de passer le cap.
Messieurs, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a Azinou Naï qui a été encore bien incroyable contre le Brésil, qui est remplaçant avec le.
Je vous donne quelques résultats. 55 minutes de jeu à peu près hein, sur les dans la deuxième journée des éliminatoires pour l'Euro 2024. L'Écosse vient de marquer son deuxième but face à l'Espagne. 2-0 pour les Écossais. Doublé de McTominay, ça lui fait 4 buts en 2 matchs, me précise Jimmy Brown.
L'Espagne, c'est d'une tristesse.
0-0 entre le Kosovo et Andorre. 1-0 pour le Pays de Galles face à la Lettonie. La Roumanie mène 2-0 face à la Biélorussie. La Suisse vient de marquer son troisième but face à Israël. Et la Croatie mène 2-0 en Turquie.
Sur l'Espagne, il y aura Fred Hermel à 22h, mais il y en a qui vont comprendre le travail de Luis Enrique. Hein, parce qu'il y en a qui critiquaient Luis Enrique. Avec le matériel qu'il a, je peux vous dire que.
Merci.
C'est pas du si mauvais boulot que ça.
Merci Walid Achrachon. Merci Simon Dutin.
Merci à
Jonathan.
Merci.
L'after qui se poursuit dans un instant avec notamment Nico Jamin. A tout de suite, on vous attend au 32-16.
Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là?
Écoute, je swipe sur l'appli Betson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betson. Télécharge l'appli Betson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.